Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous y sommes, ça y est, la 22e Coupe du Monde de foot. Eh bien, ça a commencé hier, donc on va mettre toutes nos émissions du lundi soir en configuration foot, avant aussi d'être autour d'équipe de France à travers une collaboration de nos amis du quotidien du sport à laquelle on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je vous salue donc mon partenaire, mon ami Stéphane Dezenclos. Salut Stéphane.
Salut Philippe.
Ça va,
hein? Ça va.
Demain, donc, grand moment, hein, le match
tout à fait.
En partenariat, le quotidien du sport, donc Mon Paris FM autour d'équipe de France.
Voilà, avec plein d'intervenants, ouais, d'experts. Voilà. Ça va être super.
Mais on y reviendra en fin d'émission. On va commenter les premiers résultats, le début de cette Coupe du Monde avec deux invités passionnés de foot qu'on a vu déjà donc, en ce début de saison à ce micro. C'est Éric Liévin, coach mental et grand amoureux du Paris Saint-Germain. Il a troqué le maillot du PSG pour celui de l'équipe de France durant ce mois de novembre-décembre. Bonsoir Éric.
Bonsoir à tous. Ouais,
ça va, pleine forme?
Ouais, très bien.
Le mondial commence bien.
Ah, ça y est, on s'est mis en mode mondial Coupe du Monde.
Voilà, comme nous.
Et effectivement, tu as raison, j'ai troqué pendant un mois et demi le côté Paris Saint-Germain pour me mettre en mode Coupe du Monde et puis venir te voir et être avec vous sur les moments.
Très bien. Et puis, autre intervenant, c'est Julien Géraffi, agent de joueur, qui avait été un de nos invités aussi il y a quelques semaines. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous.
Ça va? Ce
ça
mondial
va,
se présente bien.
Ravi que ça ait commencé.
L'agent de joueur que vous êtes intéressé par ce mondial.
Toujours voilà. Intéressé.
Très bien. Et puis, il est là. Il est avec nous. Il prépare ses fiches pour le grand direct de demain soir. C'est Abou. Bonsoir Abou.
Bonsoir Philippe. Ouais, ça va?
Ça y est, Coupe du Monde.
Ouais, on est prêt là. Ah ouais. On a le trac, on a hâte, mais on est prêt.
Très bien, puis il y aura LG, je crois, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Hein. Lui aussi prépare ses dernières fiches. Alors messieurs, ça y est, c'est parti, je l'ai dit, 22e Coupe du Monde. D'une façon générale, comment vous avez perçu ce début de Coupe du Monde, Éric? Déçu par l'entame de hier. Hein.
Ouais, le côté, effectivement, j'en ai fait un space hier, et on n'était pas d'accord, et c'est ouais. Tant mieux. Le côté, c'est que moi, j'ai été un peu déçu du match d'hier, pas parce que il y avait une différence de niveau, et on le savait déjà à la base. L'Équateur, c'est pas une très grande équipe non plus, mais on a vu sur le terrain que la technique des deux équipes était différente. Et c'est pas sur ça que j'ai mon coup de gueule vis-à-vis d'hier, vis-à-vis de l'équipe du Qatar. C'est que moi, sur l'ensemble du match, ils pouvaient en prendre 5, 6, ils pouvaient ne pas être bons techniquement, ou moins bons que l'Équateur. C'était pas un problème, mais j'ai pas senti de mentalité. C'est ça mon problème, c'est que sur ce match, on peut avoir l'appréhension. C'est ce que je disais hier dans le débrief que je vais.
La
je
fameuse sur gestion de l'événement, c'est
oui,
ça.
Oui, la gestion hein d'événement, on peut ne pas être bien fébrile, ouais. On est dans son pays, il y a l'émir, il y a le stade est plein, c'est le premier match de la Coupe du Monde. Donc on peut l'avoir, mais pendant 15, 20, peut-être 25 minutes. Mais là, pendant 90 minutes, moi j'ai vu des joueurs spectateurs, j'ai pas vu de mentalité, j'ai pas vu de révolte à la mi-temps. Et ça me pose problème. C'est là où moi je suis un peu déçu parce que quand et en plus, dans ton pays, j'espère qu'ils en feront d'autres. Mais pour l'instant, ils n'en avaient pas fait. Ils ont ce côté-là de le faire parce qu'ils l'organisent. Moi, je pense que tu dois tout mettre. Tu dois laisser tes poumons sur le terrain. Tu peux prendre des buts, tu peux être moins bon, mais au moins, tu dois mettre la mentalité. Et c'est ouais. Ça qui m'a posé problème hier.
Alors, on va rappeler 2-0 pour l'Équateur hier. Même sentiment, Julien, un peu déçu par cette entame de compétition à travers ce match d'ouverture.
Oui, déçu évidemment, parce qu'on n'a pas vu un grand match déjà. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis bon, l'Équateur a géré une bonne ouais. partie du match. Ils n'avaient pas besoin de plus, parce que vraiment, en face, techniquement, c'était très faible. Les sorties de balles, dès qu'on touchait un milieu, le contrôle était raté, on repartait de derrière et puis on perdait les ballons très facilement. Donc, il n'y a pas eu vraiment ce qu'on attendait, ce qu'on espérait. Et comme le disait tout à l'heure pardon, Eric, oui, on espérait au moins qu'il y ait une rébellion en deuxième mi-temps, qu'il y ait au moins une intention beaucoup plus importante. Bon, ça, on a été déçus.
Et toi, Bou, comment tu as vécu ce premier match d'ouverture ?
Bah pareil, hein, totalement déçu par le Qatar. C'est vrai que, comme il le disait, Eric, gestion de l'émotion, etc. Ok, d'accord, mais quand même, pour un premier match de Coupe du Monde, entrer en lice à la maison, on doit être un peu plus galvanisé que ça. Et les voir afficher ce niveau de jeu-là, c'est inquiétant pour le reste de leur Coupe du Monde, en fait. Parce que déjà, c'est la première équipe qui perd le match d'ouverture de sa propre Coupe du Monde. Déjà, donc ça, c'est navrant. Mais moi, j'ai bien peur qu'ils fassent zéro point, en fait, lors de cette phase de poule. Et c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment parce qu'il y a deux équipes costauds. On va parler du Sénégal un peu plus tard.
Et il a été battu par les Pays-Bas 2-0.
C'est ça. Et les Pays-Bas, il leur reste deux équipes encore très, très costauds. Donc, je suis un peu inquiet pour le reste de la compétition pour le Qatar.
Très bien. Et toi, Stéphane, comment tu as vécu ce match d'ouverture?
Comme tu
l'as zappé, je crois, à mi-temps.
Je l'ai zappé à la mi-temps, le match d'ouverture. Parce que sinon, je crois que j'allais peut-être m'endormir. Mais au-delà de ça, je pense que je vais faire un petit peu l'avocat du Qatar en disant qu'il faut attendre avant de les juger. C'était une équipe effectivement qui avait fait une préparation avec quelques matchs amicaux intéressants, quelques résultats intéressants et qui aurait dû faire mieux. Maintenant, c'est vrai que la compétition de haut niveau, ça se remplace pas, quoi. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont été en dessous de tout. Ce qui est surtout très inquiétant, je disais, pour leur Coupe du Monde, mais ça peut même être aussi inquiétant quand même pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'effectivement, les pays hôtes n'avaient jamais perdu leur premier match. Et c'est vrai qu'une victoire ou un résultat, c'est bien quand même pour qu'il y ait un engouement du public, des spectateurs. Ça, on sait, ça a été assez dit et critiqué, que le Qatar n'est pas un pays de foot.
Oui, encore moins de sport, ni de foot, ni de sport. Voilà, on construit des stades comme ça parce que justement, il y a très peu de compétitions de foot.
Donc ça aurait quand même été bien que ça prenne un petit peu. Et là, c'est complètement passé à côté, complètement le raté complet. Alors, j'attends, moi, je veux croire quand même à une petite rébellion pour eux. Mais non, c'est vrai qu'on a vu ensemble le Pays-Bas-Sénégal, c'est le même groupe, je crois, c'est ça. Quand on voit l'intensité du match, quand on voit le niveau d'un match comme ça, qui était un vrai match de Coupe du Monde, on se dit le Qatar, ça va être très très compliqué effectivement de prendre un point.
Il y a aussi d'autres facteurs qui rajoutent à la déception, c'est aussi ce qui s'est passé en tribune, le départ de nombreux supporters dès la 50-60e minute, et en fait on a bien commencé, la cérémonie était plutôt sympa, plutôt bien faite.
Oui, c'est ce que tout le monde dit.
Et en fait, on est redescendu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de public,
ça veut dire
plus
que
rien sur le terrain.
Ça veut dire que ce n'est pas la culture foot.
Et finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est assez chaotique, quoi.
Là, c'est moi qui ai envie, comme Stéphane l'a fait, d'être l'avocat du diable sur ça, parce que réellement, si je fais le parallèle vis-à-vis de moi et du Parc des Princes, comme je suis abonné, moi, réellement, je ne leur en veux pas. Et on peut pas leur en vouloir. Ils ont organisé, ça fait 12 ans qu'ils attendent ça dans le pays. Je pense qu'il y en a aussi, on ne voit pas, mais qui se sont peut-être battus pour avoir des places, pour y être, etc. Et je pense que c'est pas... Moi, je pense que c'est pas parce que c'est pas un pays de foutre et vis-à-vis de l'Europe, on fait toujours des côtés vis-à-vis de ça. Mais moi, je pense réellement que ce qui a déçu une partie du public à partir à la 60e ou avant, et moi, je pense que j'aurais vu... C'est ce manque de mentalité. Je pense qu'ils ont été déçus que les joueurs ne se battent pas qu'ils ne gagnent pas. Moi, comme quand j'entends qu'effectivement c'est inquiétant, comme le dit Stéphane sur les matchs d'après, moi ce qui m'inquiète surtout et ce que je veux voir en rébellion, ils peuvent faire zéro point. Parce que on les attend pas beaucoup sur cette Coupe du Monde. Et on le savait. Mais qu'ils fassent zéro point avec la mentalité. Et là, on les attend contre le Sénégal et on les attend contre les Pays-Bas. Ils peuvent perdre, mais qu'ils nous montrent au moins. Et je pense que leur public, moi, j'aurais été à la place de leur public, peut-être que je serais parti aussi à la 60e.
Mais il y a une époque où on a connu le champion du monde sortant qui jouait le premier match d'ouverture.
Ouais, tout à fait. Bah, c'était notamment le cas en France, par exemple, en 1998, c'était Brésil-Écosse. Ouais. Ça a été longtemps en cas. Je crois que c'était même France-Sénégal, c'était aussi le match d'ouverture, non ?
Oui, Sénégal-France en 2002.
En Corée et au Japon. 2002. Oui, ça a été effectivement abandonné. Alors bon, les plus... anti-Qatar vont dire peut-être aussi, en tout cas pour cette affiche, qui est quand même la pire de ce groupe avec le Pays-Bas, les Pays-Bas, le Sénégal, le Qatar et l'Équateur. Si on vous demande quel est le match le moins intéressant à la base ou la pire affiche, parce que le match peut devenir intéressant s'il y a de l'enjeu, tout le monde aurait répondu, je pense, Qatar-Équateur. Quoi. Donc est-ce que ça a été placé comme ça pour justement provoquer cet engouement en se disant on espère un résultat de la part de notre équipe pour qu'il y ait quand même un engouement sur cette Coupe du Monde? Est-ce que ou ça a été vraiment le fruit du hasard? Bon, j'ai un peu de mal à penser que ça puisse être la deuxième solution. C'est vrai que c'est très rare. Ils ont été mis ils étaient effectivement dans les meilleures conditions pour réussir un match, c'est-à-dire contre l'équipe. Après eux, l'équipe la plus faible du groupe et à domicile, quoi. Donc effectivement, c'est plutôt inquiétant. Je sais que beaucoup d'observateurs et tout regrettent un peu cette nouvelle règle qui était déjà le cas d'ailleurs en 2018.
En Russie, pareil.
C'était Russie, Arabie Saoudite, le match d'ouverture. 2014, là, je ne sais plus, en fait, carrément, je ne sais plus si c'est l'Espagne qui avait joué le match d'ouverture, donc champion du monde 2010, mais je n'ai pas l'impression.
Non.
C'est peut-être à
son... organisateur aussi.
Ouais. Donc voilà, bon, y a ce choix. Peut-être que c'est s'assurer aussi de... On aurait peut-être pu assister à France-Australie plutôt en match d'ouverture, par exemple, avec le champion du monde. Au moins, tu as peut-être un spectacle garanti, je ne sais pas.
Alors, en tout cas, je voulais préciser quand même qu'on aura un consultant tout au long de ce mondial. C'est Noël Tosi, hein, qui travaille aussi pour le quotidien du sport.
Oui, tout à fait, Noël Tosi.
Il interviendra tout à l'heure vers 19h30.
Oui, qui a une grande carrière, spéciale, très grand spécialiste du football africain. D'ailleurs, il était encore il y a quelques mois, il a été appelé par un ami à lui à la tête d'un club de D2 en Côte d'Ivoire. Qui voulait donc monter, et donc il l'a appelé pour faire les 6 derniers mois. Il a changé d'entraîneur, je ne savais pas, et puis Noël a réussi à faire monter, puis après il est revenu en Europe, et c'est vrai qu'il a dirigé pas mal de sélections, en France aussi je crois, il a été en poste à Angers notamment par exemple, mais oui c'est vrai, il va nous éclaircir beaucoup, il intervient déjà beaucoup dans le quotidien du sport avec des papiers très intéressants. Bon, il s'était un peu, on lui excusera, il s'était un peu planté pour le Qatar.
Qu'il voyait mieux, hein.
Noël,
ce qui fait la beauté du foot. Hein.
Noël, tu m'écoutes peut-être, on en a parlé ce matin, tu t'es planté sur ce coup-là. Mais bon, ça arrive, hein. Puis c'est effectivement ce raté complet du pays organisateur. Ouais. C'est vrai que c'était un peu dur à s'en rendre compte. Et puis aussi, on va le en parler tout à l'heure, deuxième intervenant régulier, c'est notre ami Jacques Vendroux, qui est un consultant
pour
régulier,
Europe 1, pour le quotidien
pour le journal Le Foot,
Paris FM.
Et donc qui lui est à Doha, et justement, ce sera assez intéressant d'avoir notamment son avis, parce qu'il était dans le stade hier, lui. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'il a osé partir avant, il n'aurait pas osé, de toute façon.
Il ne peut pas, il va vite. Hein.
Ah, il n'aurait pas osé, et ça va être assez intéressant, je pense, je l'ai eu au téléphone ce matin, on a enregistré une petite intervention et ça va être intéressant de savoir ce qu'il a à dire.
Bon, on passera à l'interview au moment où on va aborder le chapitre de l'équipe de France. Avant d'entrer donc sur le début de cette Coupe du Monde et groupe par groupe, l'Afrique peut jouer les troubles faites, Stéphane?
Moi, je pense, on en parlait tout à l'heure, malheureusement.
Ça commence pas très bien pour le Sénégal.
Non, malheureusement, mais ils perdent quand même à la 84e minute, je crois, le premier but. Et puis, ils ont été ils ont eu d'énormes occasions. Ils ont été
8 minutes de temps additionnel dans le match. Hein.
Mais je pense que le Sénégal peut jouer. Moi, je ne serais pas. Je vais pas dire que c'est mes favoris. Je disais tout à l'heure, j'étais même déjà. Je détonnais en disant il y a 5% de chance, effectivement. Que le Sénégal gagne la Coupe du Monde. Mais s'il y a un pays qui peut se faire un quart de finale, voire demi-finale, je les voyais bien. Moi, je pense que c'est une équipe très, très forte qu'il ne faut pas sous-estimer parce que Sadio Mané n'est pas là.
Abou, toi, tu as vu tout le match en entier. Hein. 2-0.
Ouais, 2-0.
C'est mérité, c'est pas mérité?
2-0. Alors, c'est mérité, c'est pas mérité.
Ah oui,
le match nul aurait été pour moi, selon moi, en tout cas,
mi-temps équilibré,
un peu plus.
La deuxième un
c'est
peu
ça,
plus
un peu plus en faveur du Sénégal, la deuxième mi-temps.
Ouais. Et après, paradoxalement, 2-0.
C'est ça, il y a ces deux buts encaissés, mais en Coupe du Monde, ça rate pas. Ouais. Le premier but, il y a une erreur. Enfin, pour moi, il y a Edouard Mendy qui sort mal. Et sur le deuxième but, pareil, faute encore d'Edouard Mendy. Hein, il y a le ballon qui vient sur lui et il le repousse dans les pieds de David Klaassen, qui marque le deuxième but, ça fait 2-0 pour le Pays-Bas. Et ouais, en Coupe du Monde, il y a des erreurs qui ne vont pas faire, quoi, qui ne se ratent pas. Et moi, en tout cas, selon moi, j'estime qu'Edouard Mendy n'a peut-être pas encore le niveau international, en tout cas, pour prétendre à une Coupe du Monde. Mais le Sénégal, en tout cas, comme il le disait Stéphane, c'est une très belle équipe, hein, le Sénégal. Il y a de très, très bons joueurs. Il y a l'absence de Sadio Mané aussi qui fait un peu mal offensivement, il ne faut pas se mentir. Il manque de justesse devant et je pense que Sadio il aurait apporté cette justesse là. Mais rien n'est perdu, hein. Il reste le Qatar, c'est une équipe prenable. Il y a l'Équateur qui pourront regarder droit dans les yeux.
Équateur Sénégal pour la troisième journée, ça va
ouais, je pense que ce sera la finale de ce groupe pour la deuxième place.
Ouais.
Moi j'attends beaucoup de ce match. Hein.
Oui. Ouais, avec quand même le Sénégal, je pense largement favori par rapport à l'Équateur.
Alors on salue notre ami El Hadji qui se prépare aussi pour le match de demain. Ça va, El Hadji?
Salut Philippe.
Comment
ça
tu
va,
viens d'aborder l'entame de cette Coupe du Monde?
Ça va, franchement, hier on a eu un match assez moyen qui allait dans un sens entre le Qatar et l'Équateur. Voilà, l'Équateur qui ont dominé les débats, je pense qu'il n'y avait pas. Voilà. Avec un petit but hors jeu ou pas, tout le monde se posait la question, mais il y a bien hors jeu. Voilà, ça a été, c'est clair et net sur ce point, il n'y a pas besoin de polémiquer.
Oh, c'était anecdotique, hein, vu le résultat du match.
Voilà, après, Valencia qui a mis un doublé, c'était un bon match. Ouais. Aujourd'hui, on a eu l'Angleterre qui a écrasé.
On va le dire tout à l'heure. Alors justement, on voulait en parler. Angleterre, il s'est passé un événement important à bout.
C'est
ce match, hein.
C'est ça.
Notre ami Albors nous a dit qu'il faut surtout en parler.
Et d'ailleurs, on salue Albors. Il y a l'équipe iranienne qui a refusé de chanter l'hymne de l'Iran. Hein, l'équipe iranienne qui proteste contre ce qui se passe actuellement en Iran. Il faut savoir qu'en refusant de chanter l'hymne, ils prennent une position claire, nette et précise, qui mettent en danger leur propre personne pour commencer et leurs familles qui sont en Iran. Donc grosse pensée à nos amis iraniennes et surtout aux femmes iraniennes qui vivent la répression là-bas en Iran. Et oui, il y a eu ce refus de chanter l'hymne après le résultat de ce match-là. Il reste aussi anecdotique avec ce qui se passe dans le pays, mais grosse force aux Iraniens.
Vas-y, donc continue. Puis le match de cet après-midi, donc, t'en penses quoi?
Le match de Sénégal-Pays-Bas, franchement, Abou, il a résumé un peu la chose. Hein. Edouard Mendy n'a pas été à la hauteur aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on attendait de lui. Le Sénégal ont bien joué. Bon, il manquait un peu de justesse technique vers la finition devant. Il manquait toujours la dernière passe, le dernier geste, c'était pas bon. Il manquait un Sadio Mané. Voilà, clairement, il manquait un Sadio Mané. Et de là, ça a été très dur. Voilà, ça a été difficile offensivement. Après, je pense que surtout le deuxième but. Le deuxième but, il fait vraiment, il y a une petite frappe à terre. Normalement, celle-là, il la chope. Sans parler du premier but où il fait une sortie hasardeuse. Non, franchement, Edouard Mendy n'a pas été à la hauteur. Et c'est lui, je pense, il a un peu plombé quand même. Sinon, il était bien parti pour le match nul. Je pense qu'il a un peu plombé l'équipe sur ce match-là.
Julien?
Malheureusement, Mendy, c'est pas qu'il n'a pas le niveau international. Pour moi, c'est plutôt la période qu'il traverse actuellement. Ça fait quelques mois qu'il n'est pas bien déjà, qu'il est moins performant avec son équipe. Donc, aujourd'hui, ça se retranscrit sur les matchs en équipe nationale. C'est malheureux pour lui parce qu'il a fait quand même de très très belles choses avant. Et on arrive dans un moment important pour ce pays. C'est vrai, sans la présence de Sadio Mané, sur certaines offensives, sur certaines contre-attaques, il aurait pu vraiment donner quelque chose en plus, notamment dans la justesse, dans les dernières passes. Malheureusement, il y aura des matchs importants à jouer. Je pense que contre le Qatar, le Sénégal devrait faire le travail. Après, contre l'Équateur, il faut se méfier malgré tout, puisque l'Équateur a montré quand même quelque chose, même si le match est difficile à juger. Oui. Ils ont quand même des qualités, ils ont quand même des joueurs.
Franchement, l'Équateur, ils ont quand même des qualités. Moi, franchement, Équateur-Sénégal, moi, je vois un match nul. Hein. Et un match nul, ça serait très bien pour un peu, j'ai envie de te dire, mieux, plus pour le Sénégal que pour l'Équateur. J'ai vu le match de l'Équateur, j'ai vu le match du Sénégal. L'Équateur, ça joue quand même. Ça joue assez bien. Bon, après, c'était contre une équipe assez faible, mais ça joue quand même aussi bien au ballon.
La Coupe du Monde, c'est une épreuve de longue durée. Hein.
C'est ça.
Attention.
Ouais,
mais la première phase de poule, c'est 10 jours. Hein. Donc, c'est pas si long que ça. Mais c'est vrai, on oublie un peu. Moi, je pense que le Sénégal est au-dessus. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'Équateur est quand même un pays qui s'est qualifié dans la zone sud-américaine directement. En terminant dans les 5 premiers, donc même où ça, oui, 5 premiers, je crois que je sais pas combien ils ont été 4e, je crois qu'ils ont terminé, ils sont qualifiés directement. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être l'avantage de l'altitude puisqu'ils jouent leur match à 3000 Quito, dans je sais pas combien, 3600 mètres, où c'est très haut, donc ça les aide un petit peu, ça les aide peut-être un peu, mais pas que, quoi. Donc c'est vrai que l'Équateur a été quand même un peu, en tout cas ça a été une surprise au niveau de la qualification en Amérique du Sud. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être attendre. Moi, je vois le Sénégal quand même au-dessus, mais bon, le Sénégal garde, c'est vraiment le destin entre ses mains, parce qu'ils ont deux matchs à gagner, ou même peut-être un carton contre le Qatar et puis un match nul contre l'Équateur peut leur suffire pour passer, quoi.
Et les Pays-Bas, vous en pensez quoi sur ce qu'on a vu cet après-midi?
Bah, franchement, je pense qu'au début, ils ont un peu sous-estimé, je pense, le Sénégal. Comment ils ont entamé le match, etc. Ils ont vite compris en première mi-temps que, voilà, que favori ne voulait rien dire. Voilà, parce que le Sénégal ont bien tapé dans la niche. Et voilà, ça se battait un peu mieux. Et je pense que, bon, après, en deuxième mi-temps, les Pays-Bas sont revenus, voilà, avec une victoire, parce que c'était l'essentiel, c'est ce qu'ils devaient faire aujourd'hui, c'était une victoire, clairement. Mais bon. Ils ont vu quand même que le Sénégal leur a posé pas mal de difficultés et je pense qu'ils feront plus attention prochainement contre les prochaines nations.
Alors messieurs, donc en principe, Pays-Bas et Sénégal vont sortir du groupe.
Attention à l'Équateur.
Oui, l'Équateur.
Moi je mets une pièce sur...
Ou Sénégal-Équateur, pourquoi pas.
Pays-Bas-Équateur, moi.
Je pense que là, Pays-Bas, ils peuvent pas. Ouais. Par contre, moi, je suis pareil qu'Abou au niveau du match de qu'on a vu là tout à l'heure. Réellement, 2-0, c'est sévère. Sévère parce que le Sénégal fait un bon match. Réellement, moi, je l'ai... Différentes, effectivement, on en a discuté avec Stéphane hors antenne. Moi, je les voyais bien, mais le côté de la blessure de Sadio Mané, je me disais que ça allait être compliqué parce que en défense, ça va, au milieu, c'est pas mal, mais en attaque, je trouve que c'est faible sans Sadio Mané. Et donc là, le match, je trouve que les Pays-Bas, ils ont été notamment en deuxième mi-temps, beaucoup chahutés et ils marquent sur effectivement deux coups du sort liés au gardien. Mais attention à l'Équateur, hein, comme disait Stéphane, en fait, ils finissent quatrième de leur poule de qualif, derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ils font match nul en qualif contre le Brésil, ils battent le Chili.
Ils battent l'Uruguay aussi. Ouais, ils font un match nul contre le Brésil.
C'est pas des qualifs qui sont faciles. Hein. On dit toujours les qualifs d'Amérique du Sud, mais ok, effectivement, Stéphane a raison. Quand ils jouent chez eux, il y a le côté de l'altitude et c'est jamais facile de jouer là-bas. L'équipe de France, à chaque fois qu'elle avait fait des matchs, on s'en rappelle, nous les anciens, c'était toujours compliqué avec l'oxygène. Mais réellement, attention. Moi, je pense que le Sénégal, si vraiment ils jouent comme ils ont joué contre les Pays-Bas, je pense qu'il peut ne pas y avoir photo et ils peuvent sortir de cette poule. Mais attention à l'Équateur, je pense qu'effectivement, ça va être un beau match. Moi, en tout cas, j'attends beaucoup de ce match Équateur-Sénégal qui va être peut-être la finale de la deuxième place.
Le 29 novembre, c'est.
Ça va être. Ouais,
c'est le 29 novembre. Ouais.
Avant, il va y avoir Pays-Bas-Équateur.
Ah oui, ça va être un bon match. Oui.
Parce
qu'imagine, c'est le 25 novembre.
Ouais, imagine que le Sénégal, je ne sais pas s'il joue avant, mais si le Sénégal il dispose du Qatar assez facilement, il va y avoir une petite pression quand même sur les Pays-Bas, qui, Memphis sera sûrement là dès le début, alors que là, il est rentré uniquement en cours de match, parce qu'il revient de blessure. Mais bon, ça ne va pas être non plus forcément une évidence pour le Pays-Bas. Quoi, le Pays-Bas qu'on a vu cet après-midi, ouais. En tout cas, pour ces Pays-Bas-là, ce n'est pas forcément une évidence de battre non plus l'Équateur. Quoi, hein. Donc, parce qu'il y aura peut-être... Si ton ami Abou, là, Edouard Mendy, ne fait pas ses deux sorties hasardeuses, ouais, bah, peut-être qu'il s'en sorte avec un nul, hein, les Pays-Bas. Hein.
Totalement, et moi je pense même que, parce que juste après le but encaissé par le Sénégal, ils abdiquent pas. Il y a Pape Gueye qui met une frappe ras du poteau. Enfin, qui part pour rentrer ras du poteau, il y a le gardien qui la sort. C'est une très très belle équipe. Et juste avant d'encaisser le premier but, c'est une action quand même pour le Sénégal. Donc moi, les Pays-Bas, je ne les ai pas trouvés fabuleux hein, lors de ce match-là.
Les Pays-Bas ne sont pas encore qualifiés. Je
pense que ça va être serré contre l'Équateur. Après, il y a Julien qui n'a pas l'air d'accord à côté de nous.
Ils ne sont pas encore qualifiés, effectivement. Mais ils vont quand même jouer le Qatar. Donc ils ont 3 points. un match contre le Qatar en troisième match. Ils ont quand même... ils vont pas aborder le second match avec une grosse pression non plus. Je pense que ils ont fait, même s'ils n'ont pas fait un grand match aujourd'hui, ils ont fait le score qu'il fallait. En tout cas, le résultat qui leur était essentiel.
Le Sénégal joue avant ou après le...
Alors, il y a 14 Sénégal et puis ensuite Pays-Bas, Équateur le 25 novembre.
Par et Qatar-Sénégal, c'est quand ?
On n'a pas les heures. Qatar-Sénégal, c'est le 25 novembre, le même jour que Pays-Bas, Équateur. Après, on n'a pas les heures.
Parce que si le Sénégal, tu parles juste qu'il n'y a pas de pression, si le Sénégal bat le Qatar...
À 14h, Qatar-Sénégal, et à 17h, donc Pays-Bas-Équateur.
D'accord. Bah, si à 14h, le Sénégal met 3-0 au Qatar, je peux dire que le Pays-Bas-Équateur de 17h, il va y avoir quand même une petite pression sur les épaules des Pays-Bas. Une petite pression. On est d'accord, c'est ils sont 8, je sais pas combien ils sont, 8e nation mondiale. Normalement, il n'y a pas photo, ils doivent gagner, mais il faudra mieux jouer que à mon avis, en tout cas, il faudra mieux jouer que ce qu'on a vu cet après-midi. Quoi.
Allez, on passe au groupe B, Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles. Alors ce soir, donc à 20h, on a Pays de Galles, États-Unis. Il n'y aura pas photo dans le groupe, monsieur ?
Pas photo dans quel sens, Philippe ?
Bah, l'Angleterre sortira et ensuite ce sera les États-Unis. Non, Pays de Galles.
Moi je vois le Pays de Galles deuxième.
Ouais.
Abou, j'ai pas compris. Pays de Galles deuxième. Ouais. Regarde bien attentivement le match ce soir, je pense, et tu comprendras qui sera les deuxièmes. Je pense que c'est très simple. USA, Pays de Galles, il n'y a pas photo. Moi je vois le Pays de Galles, je vois les USA. Ouais.
C'est difficile à savoir, puisqu'on n'a pas de vraie référence avec les États-Unis non plus. On ne sait pas vraiment ce qu'ils valent aujourd'hui. Alors. Effectivement, il y a de meilleurs joueurs qu'il y a quelques années.
Moi, j'ai vu jusqu'en 8e de finale de Coupe du Monde en 2014. Hein.
Moi, c'était 2014. Et ils avaient une moins bonne équipe. Ouais, là, maintenant, moi, j'ai vu ce qu'ils ont proposé en qualification pour la Coupe du Monde. Ils proposent du beau jeu. Et ils sont. Bah, vous le verrez ce soir, de toute façon. Voilà. Moi, en tout cas, je pense que premier, Angleterre. Et deuxième, je pense que ça sera. Je pense que ça sera les États-Unis.
Ouais.
Et
voilà. Eric ?
L'idée, moi, je pense que ce soir, après, on fait des paris, on se trompe.
Tant mieux, c'est ça le foot.
Moi, je vois un match, je vois pas un super match déséquilibré ce soir. Je vois plutôt un match nul. Ouais. Le Pays de Galles, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le Pays de Galles, s'il y a un grand Gareth Bale, il y a une bonne équipe qui passe. Et si Gareth Bale n'est pas là, derrière, il n'y a pas grand-chose. Alors peut-être que je suis radical, mais le Pays de Galles, ça m'a jamais enchanté au niveau ballon. Le jour où ils perdent Gareth Bale, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, réellement. Donc les États-Unis, je trouve que depuis plus d'une dizaine d'années, ça monte avec leur championnat qui font rentrer la MLS. Ça monte, ce n'est pas encore, bien sûr, une grande équipe, mais voilà, c'est toujours là déjà. Et ça joue au ballon, ça lâche rien. Donc voilà, après l'Angleterre, normalement, effectivement, doit être
Angleterre,
tranquille à ce niveau-là.
Ça me paraît logique pour sortir
ça, ça doit être tranquille à ce niveau-là. Moi, s'il n'y avait pas eu cette petite pression politique dans la tête des joueurs de l'Iran, l'Iran, quand il joue au ballon, joue au ballon. Hein. Là, quand on regarde, Taremi qui joue à Porto, qui joue à Porto, quand vous voyez quel joueur c'est, voilà, je pense que après, je pense que leur Coupe du Monde, c'est pas dans leur tête, et que effectivement, ça va peut-être se jouer entre les États-Unis et le Pays de Galles, mais je sais pas, ça va dépendre. Moi, pour moi, c'est du 50-50 entre les deux. Je vois pas l'un plus que l'autre comme ça. Ça va dépendre, moi, l'un de Gareth Bale et de l'autre de l'équipe, comment ils vont jouer.
Bah, l'Iran, en 2018, ça, c'est quand même 4 points dans leur poule, dans une poule avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Ça fait match nul contre le Portugal,
totalement.
Ça perd contre l'Espagne, mais ça bat le Maroc.
Ils ont pris combien de buts ? Est-ce que c'est une équipe qui prend pas de buts normalement ? C'est incroyable. Deux buts,
ils ont pris deux buts, c'est ça.
C'est incroyable de les avoir vus, mais c'est vrai que c'est le contexte un peu politique. Alors, ça ne va pas s'arranger avec le fait qu'ils n'aient pas chanté l'hymne. Il faut quand même savoir que Azmoun, par exemple, qui a été un des leaders de cette rébellion, entre guillemets, Carlos Queiroz avait reçu, plus ou moins, en tout cas, c'est ce qui se dit, consigne de ne pas le retenir pour la Coupe du Monde. Il l'a fait quand même, Queiroz, il l'a quand même retenu. Donc c'est vrai qu'il y a ce contexte, c'est vrai que c'est ça. Parce que si on enlève le contexte, comme je suis tout à fait d'accord avec Eric, Je ne les sens pas tellement inférieurs, en tout cas surtout pas inférieurs au Pays de Galles, qui pour moi est de très loin la moins bonne équipe du groupe. Mais en tout cas, même pas par rapport aux États-Unis, je sens qu'ils ont en 2018, ouais, effectivement, ils se font éliminer, mais on a longtemps, j'ai souvenir qu'on a longtemps pensé qu'ils pouvaient être qualifiés et que ça a toujours été une équipe qui n'était pas très loin, quoi, en fait, qui n'était vraiment pas très loin. Malheureusement, effectivement, maintenant, il se passe des choses, comme on parlait tout à l'heure avec notre ami, ils ont presque gagné déjà aujourd'hui en se battant. Nous, on a fait, je te le disais tout à l'heure, Philippe, un article sur le site, c'était Iran, la sélection qui ne veut pas jouer pour son pays, quoi. Ouais. Et c'est vrai, quand on dit ça, on a tout dit, quoi, malheureusement. Quoi. Malheureusement pour eux, et grosse pensée, effectivement.
Bon. Alors, dans le groupe, c'est Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Argentine, Mexique. Pour sortir du groupe, Julien, non?
Bah, Argentine-Mexique pour sortir du groupe.
Ouais. Face à la Pologne et l'Arabie Saoudite.
Ouais, bah après c'est, je pense que c'est un peu comme dans tous les groupes, il y en a un qui se détache, ouais. L'Argentine, oui. Et puis Mexique-Pologne. Pologne, ouais. C'est un peu en dents de scie, ça dépend des périodes. Ils ont des bons joueurs, il y a quand même de quoi faire une belle compétition. Donc c'est vrai que les Mexicains, il faut s'en méfier.
C'est le 26 novembre, hein, je crois que c'est après le match de l'équipe de France, Argentine-Mexique. Alors que le 30 novembre, c'est Pologne-Argentine. Voilà, c'est le dernier match. Hein,
après, moi, forcément, choix du cœur, obligé de choisir l'Arabie Saoudite, hein, le choix de le pays de maman. Donc je suis obligé de dire que l'Arabie Saoudite va sortir de cette poule. Mais moi, par contre... Pour parler sérieusement, je pense que les deux premiers de cette poule, ce sera Mexique et Pologne. Je ne vois pas l'Argentine sortir des poules.
Ah bon?
On en reparle à la fin de la poule. Je ne vois pas l'Argentine sortir
des poules. Pour quelle raison?
Ah bon?
Non, mais demain c'est Manita. Demain, c'est Manita. Argentine vont mettre une Manita à l'Arabie Saoudite et je pense que ça lui remettra les idées en place.
Et qu'est-ce que tu dis?
C'est intéressant d'avoir les raisons.
Ah, moi, l'Argentine, non, parce que ce n'est pas une équipe en fait qui m'impressionne plus que ça. Je sais qu'il y a tout. Enfin, défensivement, déjà, c'est une équipe qui m'impressionne pas plus que ça. Offensivement, Messi, je suis même pas sûr que demain il puisse jouer le match. Hein, et je crois qu'il est blessé, Messi. Non,
lui aussi.
Messi, il a la cheville enflée. Pas sûr que demain il puisse jouer. Et défensivement, je vous le disais, je le sens pas. Offensivement, il y a Messi qui est costaud devant. Il y a Correa, je crois, qui s'est blessé. Dybala, c'est pas le Dybala d'il y a quelques années.
Force.
C'est pas le Dybala d'il y a quelques années.
Et Martinez, il est pas mal, non?
Et Lautaro Martinez, mais comment tu peux ne même pas le citer, Abou? Non, mais Abou, je pense que t'as pas les idées très claires. Mais je t'ai dit, il va te les remettre en place demain.
Mais elle a dit. On sait qu'Abou, il a une grosse, grosse connaissance du foot.
Ah.
Ce qui le perd, on le sait très bien, c'est qu'il a des origines marseillaises, voilà. Et donc il en fait toujours trop.
Mais là pour le coup, il y a même pas de.
Parce que quand tu regardes, il y a Messi. Mais
je l'aime bien, Stéphane, c'est ça le pire. Messi, c'est un joueur que j'apprécie.
Mais à bout que tu me dises que tu les vois pas gagner la Coupe du Monde, je peux.
Ça c'est sûr, la gagneront
pas. Je peux comprendre. Mais Argentine, Pologne, il y a même pas photo, quoi.
En Pologne,
tu retires Lewandowski, il n'y a quasi rien.
Mais messieurs, on va s'accompagner jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas. Vous verrez à la fin des phases de poule.
La Pologne, c'est souvent fatigant à jouer, à regarder jouer.
Moi, je vois pas l'argent. C'est mon pari.
Oui, bien sûr.
T'as le droit. Moi, je pense que la Pologne ne va pas passer les phases de poule, large, hein, et l'Arabie Saoudite non plus. Voilà. Après, il reste Mexique et Argentine, je crois.
Mexique et Argentine,
c'est les deux qui passeront, voilà. Tout simplement. Pologne, ils sont... Je me demande même entre Pologne et Arabie Saoudite, je vois bien un match nul entre Pologne et Arabie Saoudite.
Je vais te dire,
ça serait un match de parité.
Si je voyais une surprise dans ce groupe, moi, je verrais l'Arabie Saoudite faire déjà quelque chose plutôt contre la Pologne. Si le Mexique est à son niveau, ça ne passera pas. Parce que le Mexique, quand ils sont à leur niveau, ça passe pas. Le Mexique fait pas une bonne phase de poule, l'Arabie Saoudite peut être le deuxième de cette poule et peut être la surprise.
Moi, j'ai peur quand même que l'Arabie Saoudite soit une préparation un petit peu Qatar. C'est-à-dire, tu dois mieux connaître que moi, donc tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'ils ont arrêté leur championnat depuis longtemps, qu'ils se préparent exclusivement pour cette Coupe du Monde. Je crains un peu, surtout quand on a vu ce qu'a donné le Qatar. Encore une fois, hein, sur le papier, le Qatar est très très loin de l'équipe de National ou National 2, puis peut-être qu'il battrait l'Atlético de Paris d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas est très loin de cette équipe-là, et j'ai peur que ça ait joué contre eux. Ils ont fait pareil aussi, plusieurs semaines, des stages, ils étaient en Espagne je crois, hors compétition pour se préparer, et l'Arabie Saoudite a fait un peu pareil, et j'ai peur que malheureusement ça fasse boum. Moi je pense que cette Coupe du Monde basée comme ça au milieu de la saison, ouais, elle va réussir aux équipes qui vont être sur la lignée avec des joueurs. L'exemple typique, mais vraiment numéro un, c'est le Brésil, avec des joueurs qui sont quasiment tous au top dans leur club, qui sont pleines bourres et qui arrivent lancés comme ça pour jouer une Coupe du Monde. J'ai peur de ça. Donc c'est pour ça que je pense que l'Argentine va se qualifier largement en tête, largement en tête de son groupe, mais en tout cas, devant les
autres. Mais moi, l'Arabie Saoudite, j'y crois pas plus que ça lors de cette Coupe du Monde. Après, il y a Hervé Renard, forcément, quand on dit Hervé Renard, on a toujours envie de croire en Hervé Renard. Qui quand même, hein, on le rappelle, Hervé Renard, on connaît tous le palmarès, messieurs. Donc, mais l'Arabie Saoudite, moi, j'y crois pas plus que ça. Mais
ouais, il est descendu avec Sochaux, je crois, non?
Très taquin aujourd'hui, Stéphane. Très taquin. Ouais, bah ouais. Il est aussi champion
mais
du monde.
Il a gagné deux fois la CAN
avec la Côte d'Ivoire et
le Burkina Faso.
C'est la Zambie, je crois.
La Zambie.
Et même avec le Maroc, il a pas fait de mauvaises choses.
Demi-finale avec le Maroc. Ouais. Demi-finale.
Mais franchement, moi, je veux savoir l'avis de Abou pour. Je demanderais même l'avis de tout le monde pour tu penses que qui va remporter la compétition de la Coupe du Monde?
Le Brésil.
Le choix du cœur, forcément, on dit la France, et j'espère sincèrement que la France la gagnera. Après, sur un choix de raison, moi, je vois le Brésil ou l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une équipe qui, quand même, en 2018, fait demi-finale de Coupe du Monde. Euro 2020, finale d'Euro. C'est l'Angleterre, moi, c'est une équipe, je me méfierais de les... Après, c'est toujours ça avec les Anglais, ils sont bons en début de compétition, ils avancent et après on les perd un peu sur la fin. Mais l'Angleterre de Southgate, qui, j'ai l'impression, en plus jouera sa dernière compétition avec un bloc de joueurs à fond derrière le coach, carrément là on parlait de son licenciement et les joueurs ont vraiment fait bloc derrière le coach. Je vois bien l'Angleterre aller loin, Brésil ou Angleterre, mes deux favoris.
Allez, avant la Noël Tosi, on va passer au groupe E. L'équipe de France, on garde le meilleur pour la fin. On reviendra largement sur l'équipe de France dans la dernière partie de cette émission. Groupe E, Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon. Bon, il n'y a pas photo. Hein. Espagne-Allemagne. Julien ?
Oui, a priori, Espagne-Allemagne. Après, le Japon fait toujours plutôt des compétitions intéressantes. En tout cas, montre des belles choses. Le Costa Rica, c'est un peu l'inconnu pour moi. En tout cas, j'ai pas une image très forte de ce qu'ils font ces derniers temps, donc j'aurais du mal à les évaluer. Mais oui, a priori, on est sur quelque chose qui semble évident, mais il faut se méfier, parce qu'en général, dans ce type de groupe, il y a souvent une petite surprise. Japon, j'attends de voir ce qu'ils donnent.
Ouais. Et puis, donc, dimanche, il y a un alléchant Espagne-Allemagne.
Oui.
Pour commencer le groupe. Hein.
Pour commencer, c'est assez costaud, ouais, effectivement.
Deuxième journée de groupe, voilà.
Ce qui peut mettre en confiance une des deux autres équipes qui, s'il remporte le premier match, voilà, peut avoir en tête que voilà, un exploit au deuxième match pourrait leur permettre de s'ouvrir les portes du tour suivant. Donc, voilà.
Vous êtes tous d'accord, Allemagne-Espagne?
L'Allemagne sur cette Coupe du Monde, il va falloir faire attention parce que j'ai l'impression qu'ils sont... J'ai l'impression qu'ils ont retrouvé, un groupe. On les a perdus pendant quelques années.
On parlait toujours d'Allemagne.
Voilà, ils avaient une perte de génération, ouais, etc., etc. Mais là, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. L'Espagne, c'est toujours... déjà, ils ont un bon sélectionneur, que moi, j'aime bien. Après, mon côté, c'est que je suis un peu déçu de ce qu'il a fait à Sergio Ramos. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est même limite inadmissible. Je préfère faire mon coup de gueule maintenant, puisque je l'ai fait tellement de fois hors antenne que voilà. Quand tu as un leader comme ça, en tant que coach mental comme je le suis, et puis avec la carrière qu'il a et ce qu'il a gagné, tu peux pas te permettre de ne pas prendre un gars comme ça, rien que pour ton vestiaire. Mais même sur le terrain, je le prends même pas que pour le vestiaire.
Et surtout avec la jeunesse de l'effectif.
C'est
un effectif jeune.
C'est juste incompréhensible. Et voilà, donc l'Espagne, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Je les vois pas gagner. Alors, encore une fois, hein, les pronostics qu'on va faire, on va peut-être rigoler dans un mois et demi et nous dire ah ouais. Mais après le Costa Rica, réellement, je pense que ouais, c'est moyen. Le Japon, je suis d'accord. Faut faire attention. Les équipes asiatiques, ils ont pas encore une technique football où on les attend. ils tendent à ça, ils veulent faire ça. Mais par contre, c'est le côté, c'est qu'ils lâchent rien. C'est-à-dire que s'il faut jouer 98 minutes, ils joueront 98 minutes parce qu'ils ont le côté de la nation, des choses et de, à la différence de ce que je disais vis-à-vis du Qatar et ce que j'aurais attendu du match du Qatar sur le premier match, c'est qu'ils veulent pas décevoir la nation. Ils laisseront les poumons, le maillot en sueur et voilà. Et même s'ils en prennent 3 ou 4. Donc c'est toujours vaillant. On les a vus à la dernière Coupe du Monde contre le Brésil. Le Brésil avait été en difficulté et c'était compliqué. Mais voilà, normalement, effectivement, Allemagne-Espagne dans le groupe, normalement, ça doit passer.
En tout cas, un groupe qui est particulièrement équilibré, c'est le F, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Ça, c'est un groupe équilibré.
Ouais. Alors, malin, celui qui pourra dire celles qui vont rester sur le carreau, parce que Maroc, tout peut arriver. Tout peut arriver, là.
Oui. Ouais, là, c'est difficile. Là. Ah,
peut-être pas le Canada quand même. Mais
moi, je crois justement. Dans mes surprises, j'ai donc le favori le Brésil, derrière l'Argentine, la France, après Portugal, Angleterre. Mais dans les surprises, Canada, Sénégal, Danemark. Je mets le Canada. C'est une génération exceptionnelle que le Canada a avec des joueurs exceptionnels. Et je pense qu'ils peuvent ils peuvent sortir de cette poule.
Je les aime beaucoup, hein, mes amis canadiens, Stéphane, mais je pense qu'ils sont un peu plus doués pour le hockey quand même.
Ouais, c'est pas un pays de foot non plus. Hein,
après, le côté, c'est que voilà.
Ils ont été bons pendant les éliminatoires, ils ont été très bons. Hein,
après, le côté, c'est qu'avec les équipes où on voit des joueurs comme Jonathan David qui sortent du lot, c'est comme la Pologne, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu sors Lewandowski, tu sors Gareth Bale du Pays de Galles, tu sors Jonathan David du Canada. Après, c'est compliqué. Le problème, c'est que sur un joueur...
Non, excuse-moi, Eric, je ne suis pas d'accord. Il y a Davis déjà.
Oui, mais OK.
Mais il y en a d'autres encore. Juste les épas en tête, mais il y en a d'autres qui sont très bons encore avec le Canada. Canada, il ne faut pas oublier qu'ils ont été qualifiés premiers. Ils ont été les premiers qualifiés de leur côté, quoi. Ils ont été les premiers qualifiés et ils ont été invaincus aussi.
Mais tu vois, le Canada, et vis-à-vis de leur groupe, tu vois le Canada battre la Belgique, tu vois le Canada battre la Croatie.
Mais moi, je te le dis honnêtement. Honnêtement, c'est possible. La Belgique ne fait plus aussi peur qu'il y a 2-3 ans. La Belgique ne fait plus autant. Mais il reste qui ? Lukaku, il est blessé. Il n'y a que Kevin De Bruyne. T'enlèves Kevin De Bruyne, Belgique, dis-moi, il reste qui ?
Je pense actuellement, qu'il faut se méfier de la Belgique, parce qu'elle n'est pas attendue cette fois-ci.
Moi, je te le dis.
Je pense qu'elle a dit, tu vois, le côté.
Ah ouais, que non, mais elle a dit. J'apprécie pas particulièrement Courtois, mais c'est vrai que.
Elle a dit.
Il reste Courtois si tu avec De Bruyne, si tu arrives De Bruyne. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense quand même qu'ils vont passer, mais je pense que c'est une équipe quand même très vieillissante pour beaucoup, notamment en défense, les joueurs en défense, même au milieu. Witzel, par exemple, je ne sais pas quel âge il a, 33 ans.
Non, mais il y a des jeunes qui arrivent aussi avec du talent, de Cataler, etc., qui peuvent faire des bonnes choses. C'est plutôt la défense qui m'inquiéterait, le coup.
Tu crois, par exemple, beaucoup à Michy Batshuayi, par exemple, pour marquer des buts pour la Belgique.
Mais, en fait, j'ai l'impression qu'en Belgique, il y a beaucoup de joueurs, et notamment les milieux, qui peuvent marquer des buts. Donc, je ne suis pas inquiet que Batshuayi...
Mais tu vois, moi, en super sub, Stéphane, j'aimerais bien avoir un Michy Batshuayi sur le banc, parce que Michy Batshuayi, il est décrié beaucoup. Mais je peux te dire que dès qu'il en a une, il lui en faut pas beaucoup pour la mettre au fond. Donc le côté, c'est que la Belgique, ils ont une problématique, c'est de finir les compétitions. Et voilà, c'est un vrai problème. Mais à chaque fois, depuis des années, on se dit ils vont s'arrêter, ils font une compétition, et puis là ils ont été en demi, et puis ça va s'arrêter. Mais à chaque fois ils sont là. Donc le côté, c'est que après,
à chaque fois, ils sont là ou à chaque fois, ils ne sont pas là.
Non, mais après, ils sont là quand même.
Ils ont quand même
le dernier carré, ils sont là.
Ils n'ont jamais rien gagné.
Ah, ok. Ils ne savent pas finir la compétition. Non, mais
qui jouent dans des grands clubs et qui ont l'habitude aussi des gros matchs.
Je pense qu'ils vont passer le groupe. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas passer le groupe.
C'est là qu'on parlait du Canada.
Oui, j'y crois pas du tout. Mais je pense que le Canada, c'est quoi les autres ?
Maroc et Croatie.
Oui, Maroc, Croatie.
Attention. Le Canada, par exemple, je vois le Canada au-dessus de la Croatie, moi, par exemple.
Non, moi, non.
Moi, j'ai du mal aussi à voir le Canada au-dessus de la Croatie.
Je les vois pas du tout.
Pour le coup, la Croatie, il y a des joueurs vieillissants.
Oui.
Mais
avec l'expérience, ils savent comment jouer au ballon.
Ils ont une ossature qui est forte.
Ça va être dur, bien sûr. Les favoris, si on regarde les favoris sur le papier de ce groupe-là, c'est clairement, effectivement, la Croatie et la Belgique. Je suis tout à fait d'accord.
Je suis d'accord que ça devrait être assez ouvert. Malgré tout, il y a quand même, pour moi, la Belgique qui est au-dessus.
Moi, je crois beaucoup au Canada.
On verra. on verra les prochaines semaines. Alors, pour la poursuite des groupes, mais avant, Albor doit partir. Albor, voilà. On en a parlé.
Bonsoir, messieurs.
Important aujourd'hui concernant le peuple iranien qui était cher.
Alors déjà, j'ai vu que vous en aviez, parlé. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier Philippe et Abou de me donner la possibilité de venir en parler ici sur mon Paris Sport. Alors, messieurs, c'est le journaliste franco-iranien qui vous parle aujourd'hui. Alors, en termes sportifs, il n'y a rien à dire. On a pris la piquette, on a perdu 6-2. Mais en termes d'extra-sportifs, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vous avez cette sélection iranienne qui n'a pas chanté l'hymne national. Est-ce que c'est ce que je vous disais en off. Lorsque cette équipe ne chante pas l'hymne national, elle prend position. Et lorsqu'elle prend position, elle se met en danger. Elle met en danger aussi sa famille. Donc, saluer cette valeureuse équipe iranienne, parce que voilà ce qui se passe en Iran. Je sais que ce n'est pas une émission politique, mais voilà, je suis là aussi pour vous en parler. C'est clairement une révolution. On a passé le stade de simple révolte et manifestation. Donc voilà, une grosse dédicace à cette équipe iranienne, valeureuse équipe iranienne, qui a certes perdu aujourd'hui contre une superbe équipe d'Angleterre, mais qui n'a pas eu peur. Et la Coupe du Monde aussi, c'est ça. C'est des gens qui viennent défendre des valeurs. Et c'est ce qu'a fait l'équipe d'Iran aujourd'hui. On salue Mehdi Taremi du FC Porto, Sardar Azmoun notamment, et tous les autres. Et j'aimerais vous remercier, vous spécialement, messieurs, mon Paris Sport, Philippe, Abou, Eladj, tout le monde, parce qu'on en a parlé juste avant. Et le simple fait que vous consacrez ne serait-ce que 2 minutes, 3 minutes à cet épisode-là, messieurs, dans les grands moments de l'histoire, il faut savoir être présent. Et vous avez été présent aujourd'hui, mon Paris FM. Et rien que pour ça, je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente fin d'émission. J'espère qu'il reste 2 matchs pour l'Iran contre le Pays de Galles et les États-Unis.
C'est pas perdu.
C'est pas perdu. On se souvient tous du Iran-États-Unis de 1998 à Gerland. C'est pas perdu. Moi, je reviendrai ici sur les antennes de mon Paris FM.
T'es bienvenue.
Et vraiment, merci de donner la parole aux opprimés, parce que ce qui se passe en Iran, c'est terrible. Vive l'Iran, vive la révolution, vive le peuple iranien, vive le sport, vive le foot, vive la République et vive mon Paris FM.
Voilà, et c'est pour ça qu'on aime la radio. Voilà. Allez.
Et c'était.
C'est pour ça qu'on aime la radio.
C'est surtout la passion.
L'authenticité de la radio. Voilà.
Mais c'est surtout la passion qui parle et c'est ça qui est bien.
Voilà. Allez, groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Là aussi, c'est un beau groupe. Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun.
Ouais, là allemand.
Brésil, Cameroun, intéressant bientôt. Hein.
Alors là on a le le côté où on a le Brésil et moi sur le papier. Alors après sur le papier, des fois ça veut, on est repris avec les choses, mais on a deux versions. Soit on a la version du Brésil, soit on a la version de Samuel Eto'o qui nous dit que le Cameroun va gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, à voir. Après, où je vais dans son sens, c'est que moi, si j'étais à sa place, je ferais la même chose. C'est-à-dire que si tu ne pousses pas ton équipe à vouloir aller tutoyer les sommets, réellement, tu les pousses à rien. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y croit ou pas ? Je ne sais pas. Je pense que dans sa tête, ça se trouve, il y croit vraiment, peut-être.
Oui, il y a le dire et il y a emmené les autres avec soi.
Voilà,
aussi.
Mais en tout cas, c'est un meneur. Ça l'a toujours été. Il a toujours été comme ça. Et voilà. Et ils ont une belle équipe. Réellement, et le Cameroun et la Coupe du Monde, c'est aussi beaucoup de choses, hein. Pour nous les anciens, Stéphane, Roger Milla, voilà, tous ces matchs-là, le Cameroun, c'est
90, hein, 1990,
c'est quelque chose. Donc voilà, ça va être un beau groupe. Le Cameroun avec la Suisse pour faire
quand même 3 matchs, 3 victoires pour le Brésil. On est d'accord.
Moi je pense que oui.
Après, je prends le pari, moi.
Après la Serbie, après la Serbie et la Suisse, c'est vrai que le Cameroun, réellement, ils ont pas à dénoter. Hein.
Je pense que le Brésil est favori pour la Coupe du Monde, mais je ne prendrai pas de pari là-dessus, mais je le pense. Par contre, je suis prêt à parier que ce Brésil, c'est 3 victoires, 3 matchs, et sur les 3 matchs, à peu près 10 buts marqués. Je pense que là, ils arrivent lancés à 200 à l'heure. Est-ce qu'ils vont aller au bout ? Je ne sais pas. Notamment si jamais ils se tapent l'Argentine en demi-finale, ça va être compliqué. Et après, d'autres qui vont les sortir. Mais alors là, dans ce groupe, franchement... Mais la Serbie, c'est une bonne équipe aussi. Ouais, c'est vrai que la Serbie, c'est une bonne équipe.
Ouvert, hein.
Le Cameroun, c'est une bonne équipe. Et le troisième, tu t'as dit...
Cameroun, Serbie, Suisse.
Suisse.
Ah ouais, Suisse, ouais. Suisse, ouais.
Après le Brésil.
Suisse, c'est pas beau, c'est chiant à jouer.
Faut le dire vite.
Voilà, c'est ça.
Faut le dire vite, la Suisse.
Non, mais il y a 3 belles équipes, justement. je pense, comme souvent dans les groupes de Coupe du Monde, tout dépend s'ils gagnent les deux premiers, le Brésil, peut-être que sur le troisième, ils feront tourner un peu. On ne sait pas vraiment.
Non, mais justement, même s'ils font tourner le Brésil.
Ben, en faisant tourner, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent les accrocher.
C'est Cameroun-Brésil, le dernier match. Cameroun-Brésil, le dernier match du groupe.
Ouais, donc Cameroun-Brésil, c'est pas sûr qu'il fasse tourner.
On verra ce qui va se passer, mais même faire tourner, excusez-moi.
Quand tu regardes le papier. Avec le Brésil, ça veut rien dire.
Ça veut rien dire.
C'est quand tu vois les joueurs sur le papier.
Gabriel Jesus, Vinicius, Neymar, Paqueta.
C'est impressionnant.
Toi, c'est ça, Firmino qui est resté à la maison.
Ouais, Firmino qui est resté à la maison. Je ne sais pas s'ils vont, mais ils ont aussi des joueurs défensifs, des joueurs plus défensifs.
Ils sont très complets. C'est l'équipe la plus complète.
C'est ce qui est nouveau chez eux. Et ils ont une charnière centrale qu'on connaît bien, Eric, qu'on connaît très bien et qui est très, 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 très performante. C'est Marquinhos, Thiago Silva. Donc, moi, je ne vois pas. Il a son style de jeu typique. Il a pris des joueurs pour jouer comme il a envie de jouer. Il n'a pas eu de blessé, pas d'absent, pas besoin de refaire sa liste par rapport à machin. Il a pris Dani Alves, par exemple, qui a été une surprise un peu pour tout le monde, parce qu'il sait très bien. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin que mes latéraux y montent. Je veux qu'il joue vers l'intérieur, qu'il bloque l'intérieur avec ses ailiers quand tu as Vinicius.
Et puis, il sera remplaçant. C'est aussi pour amener son expérience.
Ouais, voilà. C'est ça, c'est le côté du vestiaire.
Voilà, en plus de ça, voilà. Donc, bon, non, moi, franchement, normalement, s'il n'y a pas d'embrouille, ils vont aller au bout. Maintenant, il peut y avoir, je ne le parierai pas, parce qu'il peut y avoir des embrouilles en match à élimination directe. Tu tournes sur une équipe qui te bloque bien, notamment l'Argentine, qui les a battus. Des faits de jeu de l'Argentine qui les a battus en finale de la Copa América. Donc, tu peux effectivement.
Si on regarde, Stéphane, ça fait quand même, sur le papier, ça fait quand même. C'est impressionnant. Ouais, si tu regardes le match contre le Ghana, qu'ils ont fait amical, c'est quand même Alisson dans les buts, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Telles, Paqueta, Casemiro, Neymar, Rafinha, Richarlison, Vinicius quand même. Voilà. C'est quand même impressionnant.
Et maintenant, quand tu as dit ça, voilà, tu vas me citer tous ceux qui sont à la Coupe du Monde mais qui n'étaient pas dans cette équipe-là.
Rodrigo, Gabriel Jesus. Bah,
derrière, t'as Anthony, t'as Ederson en gardien, t'as Fabinho, t'as Rodrigo.
Et surtout,
du nombre,
hein. ils ont échoué. Et surtout, Jesus. Des joueurs, quoi. Quand je vois moi, au top niveau, quoi. Je veux dire, Neymar, on peut dire ce qu'on veut. Neymar, il est presque revenu au niveau où il était quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Quoi. Je veux dire, Neymar, il t'a fait un truc au top. Je ne vais pas m'engager sur ce qui sera en janvier, en février, moi, le supporter du PSG. Mais par contre, là, il est au top du top.
Il est stratosphérique. Le mec, il est au top.
Donc, je veux dire, je pense que c'est inarrêtable.
Et une grosse entente avec Paqueta aussi. Hein,
mais après, faut pas. Le côté, c'est que quand tu as des grosses équipes comme ça sur le papier, il faut juste pas en avoir peur et se dire qu'après, sur un match, tout est possible. Sur une poule, je les vois pas. Enfin, je vois même pas comment c'est possible. Mais après, sur un match, par exemple, je prends l'équipe de France, je prends l'Argentine, l'Allemagne. L'Angleterre, je les vois moins, moi, parce que Southgate, j'y crois pas. Mais je peux me tromper, mais j'y crois pas. Mais ces équipes-là, sur un match, s'ils ont pas peur et qu'ils y vont, réellement, ils ont football pour aussi battre le Brésil. Hein. C'est possible.
En tout cas, un beau groupe. Allez, dernier groupe avant de faire la pause et ensuite de parler de l'équipe de France et d'appeler notre ami Noël Tosi. Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Bon, Portugal, Uruguay.
Alors l'Uruguay,
non.
L'Uruguay c'est vieillissant, c'est possible. Ouais, hein, mais je trouve ça.
Une équipe qui est habituée quand même à aller en 8e de Coupe du Monde.
Mais là c'est vraiment vieillissant. Ouais. Moi non plus.
Pas cette année. Portugal-Ghana. Ouais. Moi.
D'accord.
Et un petit mot juste en passant sur le Portugal, qui est pour moi derrière le Brésil, hein, sur le papier le meilleur 11 de toute la Coupe du Monde après le Brésil. Sur le papier.
Oui, le Portugal est très, très gros.
Une énorme équipe, des joueurs poste par poste. Maintenant, effectivement, pour l'instant, dans le rendu, quoi, en tout cas ces dernières années, notamment avec cette... je sais pas quel niveau c'était à l'Euro, 8e, non, contre l'Espagne, où ils sortent à l'Euro, là, où ils sont catastrophiques. Tu comprends pas pourquoi ils jouent pas le match, tu as l'impression et tout. Et il y avait des joueurs. Mais c'est une équipe énorme. Maintenant, il y a un gros problème à régler.
À l'Euro, là, ils ont été battus par les Belges.
Par les Belges, voilà. Oui. Ils n'ont pas été. Oh. Ouais. Et maintenant, il y a un gros problème. Mais quand je dis problème, ça veut pas dire que c'est négatif ou positif. À résoudre, c'est Cristiano Ronaldo. qu'est-ce que va faire Fernando Santos avec Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il va oser le mettre sur le banc?
Jamais.
Non, jamais.
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 Il va le mettre titulaire. Oh là, et tu sais ce qu'il va faire, Stéphane? But. 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 Ah non, but. Moi je vous annonce, voilà, maintenant alors, qu'on est sur le Portugal.
Ça, je sais pas. D'accord. Mais par contre, moi, ça, il ne le mettra pas sur le banc.
Moi, ça, je le sens.
Moi, c'est impossible.
Et maintenant, moi, je vous annonce. Voilà, maintenant, je vous dis. On est aujourd'hui le 21 novembre 2022. Ouais. Voilà, pour moi, le vainqueur de la Coupe du Monde, c'est le Portugal. Ouais. Et il n'y a pas de débat.
Mais moi, je suis tout à fait, en tout cas, tout à fait à l'écoute de ce qu'a dit. C'est exactement la même chose. La différence, c'est que moi, je pense qu'il va falloir savoir réussir à gérer le cas Ronaldo. Comme je dis, c'est un problème. Effectivement, s'il marque but sur but, il ne sera absolument pas un problème. Maintenant, le foot reste le foot. On va en parler tout à l'heure
pour
l'équipe de France. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose. C'est ce qui est le cas pour Olivier Giroud. Pas parce qu'on pense quelque chose que forcément ça va arriver. Le foot, une Coupe du Monde, c'est très très compliqué. Ronaldo a marqué, je crois, 2 buts ou 3 buts depuis le début de saison, même s'il n'a pas beaucoup joué. Il a quand même joué un certain nombre de minutes. Il a dû marquer 3 buts.
Il en a mis, je pense, 4.
Bon, 4. 4 peut-être.
4. Bon, après, moi, je dis...
En club, hein, je parle.
En club,
parle
oui,
en sélection.
Non, bien sûr, en club, en sélection.
Match, par exemple, je te rajoute juste sur un match, le Portugal-Espagne, finale du groupe du Portugal en Ligue des Nations, qui se joue donc au Portugal. L'Espagne vient gagner 1-0 et se prend sa qualif pour le Final Four de la Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo est titulaire, joue, je crois, tout le match. Il est accablant sur le match. Il est vraiment, il passe carrément à travers le match. Et au lendemain de ce match-là, effectivement, beaucoup d'observateurs au Portugal disent que ce serait bien qu'il aille un peu sur le banc. Quant à, je dis que c'est un problème, je ne sais pas comment il va le régler. Quant à Joao Félix, tu as Ramos, le jeune attaquant qu'on a vu au Benfica. Moi, je suis pas contre toi. Je pense que c'est possible que le Portugal gagne la Coupe du Monde.
Elle a dit, le côté, ce qu'il faut que tu fasses attention quand même, c'est que tu te rapproches un petit peu trop d'Abou. Et donc, tu as un côté à devenir un petit peu...
Non, mais
peu,
c'est un gros fan
comme,
de Ronaldo.
Comme, tu sais, la sardine qui a bouché le port de Marseille. Il faut que tu fasses
on
un petit peu attention. L'enflammade, il faut que tu fasses attention à côté d'Abou. C'est un petit peu...
Le Portugal, champion du
monde. Tu me fais peur.
Non,
tu me fais peur, elle a dit.
Après, moi, je te dis, j'aime bien prendre des risques. Et franchement, c'est fondé. Moi, je te parle de plusieurs trucs qui sont fondés. Tu vois, par exemple, une petite anecdote comme ça. Bah, tu te demandes, en fait, chaque vainqueur de l'Euro... 2 ans avant, c'est lui qui gagnait juste après la Coupe du Monde. Pendant que ça soit juste avant, j'avais, si je ne me trompe pas, il y avait l'Espagne en 2008.
Oui, ils ont fait doubler 2008-2010.
Et ensuite, après l'Espagne, on a eu la France.
Oui, on a eu encore l'Espagne en 2012, on a eu le Portugal en 2016.
Moi, en tout cas, je pense que...
On verra, moi, je ne les vois pas gagner.
Ils iront au bout. Par contre, sur le franchement, groupe... et après, voilà, Cristiano Ronaldo, j'entends, il est beaucoup critiqué, etc. Il ne faut pas oublier qu'il a 37 ans. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, il ne s'en sent pas bien dans sa peau. Et c'est complètement compréhensible. Voilà,
sûr.
Maintenant, quand tu es dans un club et tu sens autour de toi que les gens ne veulent pas ton bien ou que les gens ne veulent pas ton bon... Il t'aime pas, en tout cas il t'aime moins du moins. Là, pour moi, ça a été une erreur de faire une deuxième saison à United. Oui. Pour moi, ça a été une erreur. Il a fait une saison là-bas, non, il les a portés. C'est lui qui les a ramenés en Europe, c'est lui qui a fait qu'ils sont cinquième en première ligue.
Elle a dit que c'était une erreur d'y aller.
Oui.
C'est même pas de faire une deuxième saison, c'était
non.
une erreur d'y aller.
Bon, après, contre, la première saison, groupe, quand même, il a quand même.
Ouais, mais c'était une erreur d'y aller. Voilà. Tu sais, dans la vie, on dit toujours. Faut jamais revenir avec ses ex. Ça, c'est déjà la première. La première chose, c'est une première erreur. Et pour les coupes de foot, ça marche toujours pareil.
Il l'a pas dit, mais c'est une citation d'Athem Ben Arfa.
Sur ce côté. Ouais. Par contre, juste pour finir, et après, je redonne parce que je sais que le timing, Philippe, t'en as besoin. Faites attention quand même sur ce groupe, parce qu'on parlait du groupe, sur la Corée.
Ah ouais.
La Corée, c'est la même chose que le Japon. Hein. C'est la même chose. Et je reprends le côté de la Corée. La Corée, ils ont battu le Chili. Ils ont battu 4-1 l'Égypte. Ils ont battu 1-0 le Cameroun. Ils ont battu 1-0 l'Islande. Ils ne lâchent rien. Donc, je ne dis pas qu'ils vont sortir. Mais en tout cas, dans ce groupe-là, je pense qu'ils seront, ils vont jouer leur match et ils seront compliqués à jouer dans ce groupe.
Bah, un peu à l'image du Japon. Je pense que la mentalité sera là. Il faut toujours se méfier d'eux. Et je voulais revenir juste sur l'Uruguay rapidement parce que Pour moi, l'Uruguay, ce n'est pas si vieillissant que ça. Il y a quand même des joueurs qui sont plutôt en forme, comme Betancourt ou Valverde. On a une attaque Darwin Núñez avec Suarez. Il y a des joueurs qui sont plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on voit les faiblesses aussi avec un Cáceres qui a je ne sais pas combien d'années aujourd'hui, qui est encore là.
Cavani, notre ami Cavani.
Voilà, certains joueurs. Mais bon.
Si tu mets Cavani titulaire, c'est un problème. Si tu mets Darwin Núñez, c'est autre chose.
Et Suarez. C'est un problème, Suarez ou
pas ? Suarez, c'est pareil.
Je veux juste repréciser quand même que moi, je partage ton avis en disant que le Portugal, moi, je le mets dans les 5-6 équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Je dis juste, ça va dépendre de comment Fernando Santos va régler le problème Ronaldo. Régler le problème Ronaldo, ça peut être de le requinquer, de faire une équipe autour de lui, de mettre beaucoup plus de travailleurs, moi c'est ça qui m'inquiète, beaucoup plus de travailleurs, de joueurs à l'aspect défensif. Quand tu vois les joueurs qu'il y a, par exemple, je pense qu'aujourd'hui le meilleur portugais c'est
Bernardo Silva.
Ouais, ou Léao, c'est ça, le joueur du Milan AC. Bernardo Silva, c'est énormissime. Il y a plein de joueurs. Sur le papier, je vous dis, à part le Brésil, je vois pas un effectif, moi, sur le papier, qui est meilleur que le Portugal. Maintenant, ça va être la façon de gérer. Où effectivement, il arrive à le faire performer. Et comme tu le dis, c'est que l'ambiance, machin. Moi, personnellement, j'en doute. Mais vous allez voir tout à l'heure, comme je doute énormément d'autres joueurs plus proches de notre sélection, mais j'en doute énormément. Maintenant, s'il y arrive, effectivement, à le faire, s'il laisse sur le terrain et qu'il performe, ça peut aller très loin. S'il prend le risque de l'écarter, il peut aussi performer sans lui. Voilà.
Donc
ça,
très bien. On verra dans les prochaines semaines, messieurs, c'est ça.
Ouais.
Qui est bien dans le foot. Allez.
On ne s'est pas enregistré, tout ça.
On marque. Personne ne nous écoute.
Ouais,
c'est du direct. Allez, nous, on fait une pause musicale avec Ninja, joli bébé. Et ensuite, on va appeler notre ami. On va appeler notre ami Noël Tosi. Allez, on y va.
Je rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. Je vends 10 balles en bas du bloc. Ici, pas d'hirondelle, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi, ma belle, je t'emmène loin d'ici. Le bitume nous tue, j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi, ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit gantée. Je me sens menacé. J'aime tes conseils, t'es ma dulcinée. Joli bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci.
Je te le donnerai de toute façon, y'a que toi dans mes pensées.
L'impression que je suis bloqué, mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute.
Y'a que toi dans mes pensées.
T'as pas lâché l'affaire, tu seras la merde, même. Coco Chanel Louis Vuitton, j'arrive comme un coup d'état. Monnaie, je dois faire everyday. Pour toi, je serais obligé de t'aimer en faisant attention. Tu me trompes, je deviens assassin. Le vrai est qu'une irritation, ça va finir en pension. Elle critique mon train de vie, dit que je suis criminel. Quand elle sort le samedi, je me sens privé d'elle. Je suis dans les affaires arbées, j'ai ça dans les veines. Je suis dans les bails arbées, je suis dans les bails arbées. Je suis de la zone bébé, tu le savais depuis longtemps. J'avais dit qu'on ferait pas semblant. J'suis dans la zone bébé, mais c'est plus comme c'était. Joli bébé, ma douce, j'te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce, j'te donnerai mon cœur sans souci.
J'te le donnerai de toute façon, y'a que toi dans mes pensées.
L'impression que j'suis bloqué, mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute.
Y'a que toi dans mes pensées.
T'as pas lâché l'affaire, tu seras la
Allez, on est en train donc de joindre notre ami Noël Tosi. On a été très très bavard, mais c'est ça le foot. L'équipe de France, on y arrive. Hein. C'est donc la dernière partie de cette émission. France, Australie, Danemark, Tunisie. Donc demain, c'est le premier match de l'équipe de France. Stéphane, qu'on vivra à la télé ensemble. Hein. Radio, télé, soirée exceptionnelle. Avant match, 19h-20h. Match commenté par nos amis El Hadji et Abou, donc entre 20h et 22h. Et ensuite, donc, l'après-match, 23h. Je crois qu'on a notre ami Noël Tosi. Noël, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors Noël, on a été très bavard. On vous avait dit 19h.
C'est pas grave, c'était très bien.
Et c'est 20h, ça vous a plu? Alors, ce début de mondial, comment vous le prenez?
Alors déjà, je vais rassurer Abou.
Oui, Abou est content,
parce
oui.
Parce que l'Arabie Saoudite va faire une belle surprise. Ah. Il faut qu'elle soit bonne au premier match. Oui. C'est-à-dire, elle n'aura pas la présence. J'avais dit la même chose que le Qatar allait surprendre. Bon, on a vu hier soir un match de national. Mais l'Arabie Saoudite, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont un sélectionneur qui n'a pas passé 5 mois en Espagne. Le sélectionneur du Qatar a envoyé son équipe pendant 5 mois en Espagne et il est espagnol. Et il a voulu faire jouer le Qatar comme l'équipe d'Espagne. Et je pense que c'était. C'est une grave erreur parce que je ne vois pas comment, avec leur faiblesse technique, ils auraient pu imposer leur possession de balle aux autres équipes. Alors j'espère qu'il va changer son fusil d'épaule. Mais l'Arabie Saoudite, avec Hervé Renard, je pense que ce sera beaucoup plus difficile. Et une Argentine sans Messi, écoutez, je pense qu'ils ne mettront pas. Il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle.
D'accord. Sinon, comment vous avez vu et jugé le début de ce mondial, déçu notamment par le match d'ouverture?
Ah oui, mais alors aujourd'hui, quel régal.
Ah oui.
Aujourd'hui, quel régal. Je veux dire, on a failli voir le Sénégal faire un immense exploit. Il s'en est fallu de peu. Mais je pense que les blessures qu'ils ont eues dans le courant de la deuxième partie du match ont été décisives. Mais bon, peut-être on en reparlera après, des blessures. Et puis, j'ai vu une équipe d'Angleterre qui a survolé le match aussi et qui... pourrait être un bon exemple pour la France parce que le pressing qu'ils ont mis d'entrée de jeu contre l'Iran, ça a été assez exceptionnel. Et puis les enchaînements sur les côtés, etc. contre une équipe regroupée, c'était bien. On a vu trois belles équipes, quoi. On a vu trois belles équipes, même sur l'Iran, a toutes ses chances. Hein, quand on voit l'Équateur ou le Qatar, je pense qu'ils peuvent aussi se qualifier. Même quand on perd le premier match, c'est assez difficile.
Et oui, c'est ça le problème. Alors, Noël, on parlera de l'équipe de France, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques blessures assez importantes du côté français et même sur l'ensemble de ce mondial. Alors, beaucoup se disent, mais c'est étonnant quand même, 3 mois de compétition et déjà autant de joueurs blessés.
Oui, ça correspond un petit peu à la période creuse dans le championnat. On a commencé le championnat au mois d'août, pratiquement dans le monde entier, et c'est vrai qu'au bout de 3 mois, les organismes ont besoin de souffler. C'est pour ça qu'il y a souvent des coupures avec la Coupe de France en France. Et il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un mondial au mois de juillet ou au mois de juin, on s'arrête 3 semaines avant.
Oui.
Tout d'abord, la première des choses que les sélectionneurs font, c'est qu'ils testent physiquement leurs joueurs. Et il y a des tests de fatigue pour savoir s'ils sont fatigués, pour savoir s'ils ont besoin d'être réathlétisés ou s'il faut mettre le paquet. Ensuite, et toutes les équipes de France l'ont fait dans tous les mondiaux, peut-être dans celui-là, on part en altitude, Font-Romeu ou ailleurs, etc. Et là, on fait une période de réathlétisation, de réoxygénation, et on remet les organismes au point, physiquement, parce que là, on a besoin d'avoir du carburant, on a besoin d'avoir de la force musculaire, et on a besoin d'avoir la capacité de répéter les efforts. Donc, à partir de là, c'est complètement tronqué en ce moment. En ce moment, on a vu l'Angleterre qui a survolé ce match physiquement. Je me demande comment ils ont fait, d'ailleurs, parce que bon, ils ont eu un match il y a 4-5 jours dans le championnat anglais, mais on a vu une équipe quand même anglaise qui physiquement était... Donc, ça veut trop rien dire. Et c'est peut-être après, dans les matchs à élimination directe, qu'on va avoir des grosses surprises.
Et oui, parce que ça dure un mois la compétition.
Exactement. Et c'est pas l'équipe qui démarre sur les chapeaux de roue qui va peut-être faire la différence dans 15 jours. Quoi.
Parce que Noël, tu parles de la préparation, effectivement, mais tous les blessés qu'on compte pour l'instant, il n'y en a aucun qui est en rapport avec la préparation. Si tu veux, ton explication là, que tu viens de donner, elle serait un peu valable si jamais on constatait, mettons au bout d'une semaine de Coupe du Monde, que les joueurs se cassaient à tire-larigot dans les matchs. Maintenant, pour ce qui est de la France, par exemple, hein, Kanté, Pogba, Benzema, Kimpembe, c'est des joueurs qui étaient blessés déjà il y a quasiment un mois, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un rapport pourquoi D'ailleurs, je crois que moi, mon explication à moi, c'est que c'est un phénomène finalement complètement classique qui échappe à toutes les lois, qui fait que voilà, si on reprend toutes les Coupes du Monde, je ne sais pas si tu regardes le 2018, je pense qu'il y a eu aussi, pareil, un certain nombre de joueurs qui, un mois avant, ont parlé à la Coupe du Monde. Sauf que là, on n'est pas. Malheureusement, entre guillemets, on n'est pas verni l'équipe de France puisqu'on a, on prend pas mal de blessés. Maintenant, je sais pas quel est l'avis. Est-ce qu'ils ont trop joué avant ou est-ce qu'ils ont
Alors, je vais prendre un cas particulier. Moi, il y a 6 jours, j'ai écrit un article dans le quotidien du sport où j'expliquais que Benzema. Je le mettrai au repos pendant tout le premier tour. Et pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ouais, j'ai bien vu, mais c'est ce que j'aurais fait. Et ce que je pense que Deschamps a voulu faire, mais il lui a posé la question. Et souvent, l'entraîneur, quand il pose la question au joueur, comment tu te sens ? Je ne connais pas un seul joueur au monde qui, dans un match important, va te dire non, je ne suis pas bien, je vais laisser jouer quelqu'un d'autre. Donc à partir de là, il est clair et net que Benzema lui a dû lui dire ça va. Et donc, comme il lui a dit ça va, il a joué le jeu, il a dit je vais lui faire confiance. Mais bon, on a vu tout ce qui s'est passé, le ballon d'or, il a décompressé, et c'est normal, c'est humain qu'il décompresse après un ballon d'or. Il a fait quelques minutes depuis il a fait une fin de saison avec le Real Madrid, mais exceptionnelle, on n'a jamais vu ça. Il a battu le Paris Saint-Germain à lui tout seul, Benzema. Je veux dire, c'était assez extraordinaire. Et là, il aurait fallu attendre un peu, et j'espère qu'il va attendre un peu avec Varane et qu'il ne va pas nous le mettre de suite dans le premier match. Parce que ce qu'on sait surtout aussi, c'est que c'est le premier match, il est décisif, hein, parce que le Danemark, c'est notre bête noire, et je n'y crois pas trop. Donc, il va falloir absolument battre l'Australie.
Oui, alors justement, vous le voyez comment ce match ? Équipe difficile à manœuvrer, l'Australie ?
Oui, alors c'est une équipe qui va jouer en 4-5-1. Ils vont jouer dans les 30 derniers mètres. Et un petit peu comme a essayé de jouer l'Iran pendant les 20 premières minutes. Là. Et donc, ça va être notre capacité à passer par les côtés, notre capacité à contourner ce bloc et à rentrer dans la surface de réparation. Parce que si on commence à faire des passes à 30, 40 mètres du but, on va jouer le jeu des Australiens qui ont un jeu de tête assez exceptionnel. Donc, il va falloir qu'on passe par les côtés avec peut-être Dembélé qui va être une révélation, avec Mbappé, bien sûr, mais aussi dans ces moments-là, tactiquement, quand on joue contre une défense regroupée, c'est souvent les latéraux, les milieux de terrain qui font la différence. Comment et pourquoi ? On l'a vu avec l'Angleterre, avec le premier but, c'est un milieu de terrain, c'est ce jeune joueur qui est venu et qui a mis sa tête, alors que quand on vient du milieu de terrain et qu'on arrive dans la surface de réparation, on est rarement marqué. Quand on vient des côtés, comme arrière latéraux, et qu'on vient dans la surface de la réparation, on est rarement marqué individuellement. Donc c'est peut-être les joueurs qui seront un petit peu moins au feu qui vont faire la différence dans ce match-là. Et il faudra faire la différence très vite, parce que vous allez voir que l'Australie, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en 2018, on s'est fait bouger par l'Australie. Je vous rappelle qu'à l'époque, Didier Deschamps avait mis une soufflante carabinée à Dembélé, à Mbappé et à la moitié de l'équipe. Ouais. Et il leur avait dit, mais le football de haut niveau, c'est pas seulement, on joue pas seulement quand on a le ballon, mais on joue aussi quand on n'a pas le ballon. Donc, à mon avis, je pense qu'on va faire un pressing de fou furieux dès la perte de balle. Et puis après, ce sera le talent individuel de tout un chacun. Il faut être optimiste. Je pense que notre équipe, est certainement bonne avec sans, avec l'absence de Benzema, on aurait eu deux stars, on aurait été la seule équipe de ce mondial avec deux stars, hein, puisque bon, Messi c'est l'Argentine, Neymar c'est le Brésil, ben, nous on avait Benzema et Mbappé, et c'est vrai que c'était beau.
Alors je vais me faire toujours mon avocat, enfin celui du diable, mon propre avocat. Est-ce que contre l'Australie, c'est pas quand même un peu risqué, même dangereux pour l'équipe d'aller combattre les Australiens sur leur point fort, c'est-à-dire le duel et le duel aérien, en mettant par exemple Olivier Giroud. Alors est-ce qu'une attaque comme un Dembélé Mbappé, par exemple, serait pas plus performante pour jouer dans les petits espaces et percuter? Je sais que personne n'est d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense.
Je vais te donner un argument qui est assez convaincant. Giroud, c'est pas seulement un attaquant. Giroud, c'est aussi. Giroud, c'est quelqu'un qui, quand on est, ben oui, il a pas marqué, mais alors qu'il a peut-être plus dans cette Coupe du Monde que dans la Coupe du Monde de 2018. Et c'est quelqu'un qui revient défendre et qui apporte son jeu aérien défensif sur tous les coups de pied arrêtés de l'équipe adverse. Ensuite, c'est quelqu'un qui se replace, mais vraiment de façon remarquable, qui défend, qui se bat comme un lion, etc. Et ça, c'est pas à négliger dans un match comme ça. Après, si tu mets trop de petits gabarits, ça veut dire aussi que tu vas pas pouvoir centrer, parce que Giroud, il a quand même une capacité, on l'a vu récemment avec le Milan AC, c'est qu'il arrive à devancer. Il va au duel, il passe le bras, il arrive à devancer le défenseur avec la tête, avec le pied, etc. Et ça, on aura peut-être besoin que Giroud aille au duel pour que peut-être ou un Dembélé ou un Mbappé ou un Griezmann fasse
des ballons aériens, tu vas dans le jeu des Australiens.
Je ne pense pas
qu'on va jouer des ballons aériens. On va essayer de faire la dernière passe à l'intérieur.
Giroud sert à rien alors si tu mets pas des ballons.
Non, pas du tout. Parce qu'il va fixer, il va fixer.
Occuper les deux défenseurs centraux et ça laisse la place pour les milieux justement.
C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Il marque pas, mais on est champion du monde.
Oui, on l'a gagné. N'oublions pas, on l'a gagné avec Giroud. Et son rôle tactique, le rôle tactique de ce joueur est absolument déterminant. Seulement aujourd'hui, il a quand même 4 ans de plus.
Merci, monsieur Tanzi.
Bon, 4 ans de plus, c'est beaucoup.
Eh oui. Bon, Noël, on reviendra sur l'équipe de France plus longuement demain soir, dans l'avant-match, à partir de 19h.
Impeccable.
Et puis, vous continuez à nous écouter. Justement, l'équipe de France, on en parle maintenant avec nos invités.
Superbe. Voilà.
Et puis, donc, et demain...
Rassure Abou, il peut parier sur l'Arabie Saoudite.
Ok, il peut parier sur l'Arabie Saoudite. Message de...
Un petit billet, pas gros.
De Noël Tosi, d'accord. Un petit billet, pas gros. Ok.
Je mettrai le livret A.
Il mettra le livret A. Bon, Noël, à demain. Merci en tout cas.
À demain.
Merci,
bonne soirée. Au revoir à tous.
Merci, Noël. Voilà. Donc, c'est bien. Maintenant, le débat est planté. L'équipe de France donc, contre l'Australie demain soir. Dans le même groupe, donc le Danemark et puis la Tunisie. Bon, messieurs, est-ce que vous êtes inquiets ou pas?
Non, moi je dis.
Malgré toutes ces blessures. Hein.
Non, mais alors, si on commence à être inquiet contre l'Australie, je pense qu'il faut déjà. Ouais. Je pense qu'il faut appeler l'agence de voyage, réserver les billets de retour et rentrer. Réellement, je pense que là, ça serait compliqué. Mais au-delà de ça, moi, on en a parlé hors antenne avec Stéphane, donc on peut en reparler ici. Moi, la différence, je pense que Giroud va être quelque chose un bienfait pour l'équipe de France. Et puis, comme le disait Noël Tanzi sur Noël Tanzi vis-à-vis des Australiens. Les Australiens, c'est pas sur la technique qu'ils vont nous battre. Réellement,
équipe qui défend beaucoup.
Réellement. Et, effectivement, leur jeu, c'est des longs ballons et le jeu de tête. Je pense pas que le jeu de tête, ça va être Mbappé qui va aller le chercher. Je pense pas que ça va être Dembélé. Et je pense encore moins que ça soit Kingsley Coman. Donc réellement, comme l'a dit M. Tosi, c'est le côté, c'est que à la fois offensivement et défensivement, il va être important d'avoir un gabarit comme Giroud, comme le souhaite Mbappé depuis longtemps. Il va avoir son pivot, son joueur pivot, et dans les matchs comme ça, je trouve que c'est très important de l'avoir. Et je pense qu'avec des flèches comme on va avoir comme Dembélé et Mbappé. Je pense que ça peut faire très 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 mal à l'Australie. Après, effectivement, comme l'a dit Noël Tosi, je crois qu'il faut qu'on fasse un pressing très très fort à la perte de la perte du ballon, parce que effectivement, bon, voilà, on va avoir derrière une sorte de kick and rush et ils vont être rudes sur l'homme, ça c'est sûr.
Abou, El Hadji après Abou et après ouais, Julien.
Moi, franchement, je pense que j'ai pas trop à m'en faire. Moi, depuis le début. Avant la liste, etc.
Dans la liste.
Voilà, dans la liste. Voilà. Moi, ouais. Depuis avant ça, etc., je disais que si Giroud n'est pas dans la liste, la France n'allait pas dépasser les huitièmes. Elle n'allait pas dépasser les huitièmes. Voilà. Sans Giroud, je pense qu'ils n'allaient pas dépasser les huitièmes. Là, avec Giroud, je me sens beaucoup plus confiant pour les Français. Et je pense qu'avec Giroud, et je pense qu'il va contribuer très fortement à l'avancée de l'équipe de France et j'espère jusqu'au triomphe. Voilà, parce que Stéphane, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Je te vois souvent, tu es dans la critique avec Giroud, mais je t'annonce, l'un des meilleurs attaquants dernièrement, c'est Giroud. Il n'y a rien à dire, il n'y a même pas de débat en fait dessus. Tu vois, c'est Giroud. Giroud, voilà. En termes de qualité devant, en termes de but.
En termes de joueur qui est très bon sans marquer de but. Parce si tu prends les 10, on va dire les 10 top buteurs qui sont présents à la Coupe du Monde.
Ouais.
Donc il faudrait faire la liste. Hein, ouais. Mais je pense que Giroud est de très loin celui qui a marqué le moins, le moins de buts depuis le début de la saison.
Il n'y a pas de souci. Mais donc, il a beaucoup contribué. Okay, on a vu les matchs.
Okay.
Attends Stéphane, on a regardé les mêmes matchs pendant la Coupe du Monde 2018 ou je
ouais,
pense
ouais,
que
ouais, ouais, ouais.
Non, je pense que l'écran était un peu
ans, hein. Il y a 4 ans et demi.
Bah ça buguait un peu peut-être l'antenne ne suivait
après,
pas trop
après,
mais
après Stéphane, moi, après Stéphane, c'est quand même c'est 19 matchs championnat plus Ligue des Champions. C'est 9 buts.
Ouais, 9 buts. Non mais je dis pas
moi j'aimerais bien avoir un ratio comme ça pour tous les attaquants hein.
Non mais même dernièrement tu l'appelles en sélection, il te met 2 buts.
Coupe d'Italie,
tu l'appelles
Coupe d'Italie, tu l'appelles. Non mais elle a dit Coupe d'Italie 4 matchs.
Ça veut dire quoi ça Stéphane?
Je dis juste
je sais pas moi parce que pour moi du niveau. Moi pour moi niveau Côte d'Ivoire Australie, Côte d'Ivoire il tape l'Australie. Il n'y a pas photo.
Oui,
pour moi, il n'y a pas photo.
Ouais,
du coup, si tu me
dis
que pour la Côte d'Ivoire, il arrive à marquer, je pense que pour l'Australie, il y arrivera aussi.
Je suis d'accord avec toi.
Et la Tunisie
bien
aussi,
sûr.
Je pense que
bien
davantage
sûr.
Encore.
Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je dis simplement, que je ne dis pas par rapport à ce que vient de dire Eric, que Olivier Giroud ne marque pas de but du tout. Je dis juste que tu regardes, on est une sélection qui se veut être parmi les favorites pour la Coupe du Monde. Tu regardes les 10 attaquants, je pense, de classe mondiale qui sont dans les différentes sélections qui sont à la Coupe du Monde. Je pense que Giroud, il est loin derrière au niveau du but, de nombre de buts depuis les buts.
Heureusement que le nombre de buts ne fait pas tout.
Exactement.
Et franchement, Stéphane, c'est toi qui devrais me dire ça. Parce que maintenant, nous, on va dire avec les jeunes, etc., on regarde beaucoup les stats, on regarde le jeu du football, etc.
Non.
Mais dans le jeu, dans le football, ce que Giroud apporte offensivement, il y a très peu d'attaquants qui l'apportent.
Peut-être, c'est pas mon avis. Et je dirais juste qu'un numéro 9, il doit marquer des buts. Je veux dire, bon, maintenant, on peut aussi dire que toi, t'as pas connu ça ou t'étais très jeune. Je dis ça, Eric, lui, il a connu, Philippe aussi. En 1998, tu peux dire, Guy Varche, il a joué un énorme rôle dans la Coupe du Monde remportée par l'équipe de France. Il a
la
pas
preuve,
marqué
je sais même
pro.
Pas. La preuve, Stéphane, je sais même pas c'est qui Guy Varche.
Voilà,
je sais même pas. Mais Giroud, je sais que Giroud, je pourrai en parler à mes enfants. Giroud, il reste dans le classement des meilleurs buteurs français.
Il sera peut-être
je vois pas.
Buteur,
je vois pas
Giroud
si à l'intérieur.
Mais Stéphane, par exemple, là, tu disais de regarder. Dans ta liste, tu mets Harry Kane.
Ouais, mais bien qu'il fasse une mauvaise.
Non, mais tu mets Harry Kane. Sur ta liste où tu voulais me dire, tu mets Harry Kane. Tu me l'as dit en off, donc tu mets Harry Kane.
Harry Kane,
depuis le début de la saison. Sur les trois compétitions, c'est-à-dire Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions et Championnat. Et si tu prends Giroud sur la Coupe d'Italie, la Ligue des Champions et le Championnat en Italie, Harry Kane, c'est 22 matchs, 12 buts, toutes compétitions confondues de ces trois matchs. Et Giroud, on est à 23 matchs et on est à 11 buts.
Je pense qu'il faut sortir.
Réellement de... Non, non, mais.
Ouais, mais enfin,
Abou, le côté, c'est que la question, c'était si tu prends l'ensemble des grands attaquants qui sont à la Coupe du Monde, il est très, très loin au niveau des buts.
Mais c'est pour
non,
ça que moi,
je suis
qu'il
désolé,
faut
il n'y est pas.
Des stats,
il
parce
est pas.
Qu'on dit, on moi, parle d'Harry Kane. Limite, là, on ferait passer Harry Kane pour un moins bon joueur que Olivier Giroud. Doucement, monsieur.
Mais c'est pas la question.
Sortons des statistiques.
C'est pas la question.
Sortons des statistiques.
Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit.
C'est pas la question.
C'est pas ce qu'il a dit.
Parce que là, on est en train de comparer leurs stats.
Mais parce que la question, elle était si tu prends l'ensemble des grands attaquants qui sont à la Coupe du Monde.
Il dit qu'il marque peut-être autant. Mais bien que ce que tu dis là, c'est pas ce qu'a dit Eric, mais ce que tu dis là, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Moi, j'ai quand même vu des contacts, des posts sur les réseaux sociaux où on disait par exemple que Giroud, ça va le faire parce que Giroud, il est plus fort qu'en 2018. Giroud, il a 35 ans, ou ouais, 35 ou 36. Il a 35 ans ou 36 ans, Giroud. Moi, je dis juste, je demande que ça. Aujourd'hui, tu me demandes, est-ce que tu peux faire un chèque de temps pour que Giroud marque un triplé demain? Je fais le chèque.
Moi, le côté...
J'ai envie qu'il marque.
Non, mais si on rentre,
j'ai très peur qu'il en marque pas. Encore plus contre une équipe qui va lui rentrer sur son point fort et qui va le.
Juste le côté Abou. Je vais justement pas dans ton sens. Moi, je répondais juste à Stéphane. Moi, j'aime pas le côté des stats. Non, mais je répondais quand même. Oui, mais attends, juste une chose, Abou. Le côté, c'est que moi, je voudrais mettre en perspective autre chose que les buts. Si tu demandes aujourd'hui au sélectionneur anglais, tu lui dis, est-ce que tu prends Giroud en attaquant si tu n'as pas Harry Kane? Il te dit oui à 2000%.
Oui, mais...
Si tu demandes à Luis Enrique, est-ce que tu prends Giroud si tu n'as pas un de tes attaquants, etc. en Espagne, il te dit oui à 2000%.
Mais Eric, même moi, demain, tu me dis...
Peut-être pas au Brésil, peut-être pas en Argentine.
Je te dis, je mets Giroud en pointe. Moi, j'ai jamais été contre toi.
Non, mais c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut demander au sélectionneur s'il le prendrait.
Mais même moi, je fais Giroud.
Et réellement, c'est là que tu vois que le joueur...
Les gars, juste, je veux bien qu'on les stats comptent pas, mais quand même, un avant-centre qui a zéro but, ça compte quand même un petit peu.
Mais zéro but où?
À la Coupe du Monde, par exemple.
Oui, non, mais à la Coupe du Monde. Mais tu prends sur une Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est à deux buts de Thierry Henry, qui est le meilleur buteur en équipe de France. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien, mais une carrière, c'est pas juste une Coupe du Monde.
J'ai l'impression que tu as des attentes de spectateurs. Et il y a le spectateur, ce qu'il veut voir et ce qu'il attend. Donc, des buts, etc. Il y a un avant-centre qui va être beau à voir. Et il y a les attentes du coach. Et à ce niveau-là, Giroud, il remplit énormément de critères, différences énormes sur le terrain. Et moi, je ne suis pas inquiet qu'il ne marque pas, parce que ce n'est pas parce qu'il ne marque pas qu'on ne sera pas bon. Après, je serais déçu pour lui, évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'il ne marque pas que l'équipe de France ne sera pas performante. Et c'est ça qui l'amène
moi,
aussi.
Moi, je vais vous dire qu'il va marquer.
Et je pense aussi qu'il va marquer. Et...
Il va marquer contre l'Australie.
Ouais. Moi, je pense que si Karim Benzema avait été là, la pression... même s'il sait la gérer, etc., c'est un professionnel, aurait été différente pour lui et peut-être que sa Coupe du Monde aurait été différente. Moi, je pense...
Il n'aurait pas été appelé si Benzema avait été là.
C'est pas, il lui a dit qu'il jouerait pas un rôle majeur, mais il aurait été appelé. Mais le côté, ce que je veux dire, c'est que je veux pas dire que c'est bien que qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas, moi je trouve que c'est une grosse perte qu'on n'ait pas Karim Benzema, mais je pense que le fait de ne pas avoir Karim Benzema, je pense que ça va retirer toute la pression sur Giroud et je pense qu'il va faire une très très bonne Coupe du Monde.
Voilà, moi, je ne pense pas du tout. Comme Ronaldo, je ne pense pas que Ronaldo va faire une bonne Coupe du Monde. Je ne pense pas que Giroud.
Et sur le plan défensif et milieu de terrain, il y a des inquiétudes. Alors,
Moi, j'ai des vraies inquiétudes. On n'a pas une charnière centrale
C'est peut-être là.
Déjà, on a une charnière centrale qui est jeune. On a une charnière centrale avec un titulaire qui, dans son club, n'est pas bon. Raphaël Varane. Réellement,
il n'est pas titulaire avec la France, mais j'ai cru que tu me parlais de soit Konaté, soit Upamecano, j'avais peur, mais
le côté c'est que Konaté et Upamecano, ils n'ont pas d'automatisme. Non, mais c'est pas une question. Dans une Coupe du Monde, on n'a pas que besoin de joueurs qui soient bons techniquement ou autre. On a besoin de joueurs qui ont des automatismes. Parce qu'ils n'ont pas joué 38 matchs ensemble pour pouvoir faire. Et en Coupe du Monde, il y a très peu de matchs pour se mettre ensemble. Et les automatismes, c'est très important sur un match. En poule, moins, mais sur un match, c'est important. Le côté, c'est que moi, ce qui me fait peur sur cette charnière, et effectivement, je vais te donner la parole, le côté, c'est que c'est le peu d'automatisme de la charnière et une charnière qui a peu d'expérience. Et ces deux côtés, c'est compliqué sur une Coupe du Monde.
C'est vrai que l'expérience n'est pas là. Très, très peu de matchs déjà en équipe de France et puis ensemble. Maintenant, Deschamps est pragmatique et il a des joueurs. Il a trois joueurs sur quatre en défense qui viennent du Bayern Munich. Il va utiliser ça. Hernandez à gauche, Pavard à droite, Upamecano dans l'axe. ce qui fait qu'il n'y en a qu'un finalement qui n'a pas les automatismes avec les autres. Donc je pense que ça limite un peu ce côté-là. Maintenant, l'expérience, effectivement, ça peut être
problématique. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein. S'il joue pas demain en titulaire, Varane, le match d'après, il le sera. Hein, et ça sera
il est annoncé titulaire demain.
Il est même annoncé titulaire. C'est un cadre indispensable à l'équipe de France.
Mais non, absolument pas. Pas ces derniers temps, Stéphane.
Il est annoncé titulaire.
Oui, mais Stéphane, pas ces derniers temps. Ce n'est pas un cadre indispensable à l'équipe de France en vue de ses performances dernièrement. Absolument pas. Mais je le mets sur le banc, je mets ou pas Mécano, et je mets Konaté et je ferme la boutique. Mais je le mets pas à Varane. Je le mets jamais.
Bah, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est un cadre indispensable à l'équipe de France.
Ouais, mais pas contre 2018, pas contre l'Australie.
Non,
à la rigueur,
tu
n'en as pas besoin contre
l'Australie. Tu peux espérer t'en passer contre l'Australie. Dans l'ensemble, c'est un joueur indispensable. Après, je veux dire, si t'avais Pogba au milieu, t'avais Varane derrière, t'as Mbappé devant, c'est les trois qui sont indispensables.
En 2018, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, en 2022, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne mets pas Varane titulaire. Je ne le mets pas. Pour moi, il n'est pas indispensable à l'équipe de France. Pour moi, même limite, il ne l'aurait pas appelé. Ça ne m'aurait pas choqué parce qu'il était déjà blessé. Il avait déjà des petites blessures, etc. On ne ramène pas un joueur qui est déjà blessé. On ne sait pas s'il va jouer, il ne va pas rejouer. Il va faire une rechute. Le premier match, il est juste. Il n'est pas trop juste. Il va jouer dès le deuxième match. C'est la Coupe du
Deschamps,
monde. C'est la Coupe du
Deschamps,
monde.
Il ne fait pas son groupe comme ça. Voilà. Deschamps, il a besoin de ses cadres.
Non, mais
ça, c'est blessé, moyennement blessé. Si c'est totalement blessé, non, il ne les prendra
pas. Trois Coupes du Monde. Troisième Coupe du Monde.
Il a besoin de ses cadres. Deschamps, il a toujours été comme ça.
L'euro et tout, je veux dire, le mec, c'est le patron, c'est le boss derrière. Moi, je suis tout à fait raison dans ce que tu dis avec les joueurs du Bayern derrière, ce qui sera d'ailleurs peut-être pour ça que Upamecano, malgré des matchs catastrophiques avec l'équipe de France, va peut-être débuter à côté de Varane ou de Konaté, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est indispensable. C'est tout. Comme tu pourrais dire peut-être que Mike Maignan ou un autre gardien, sur le moment, parce qu'il a fait une bourde ou un truc, est peut-être mieux que Loris. Loris, il est indispensable. Quoi. Je veux dire, il est indispensable. Ces mecs qui ont ce caractère de compétiteur, qui ont gagné, qui ont une expérience énorme, Stéphane, c'est des joueurs qui sont indispensables. Quoi.
Stéphane, aujourd'hui, Mike Maignan, non blessé et Hugo Lloris, qui est-ce que tu mets titulaire?
Je discute même pas 10 secondes, je mets Hugo Lloris.
Sur cette Coupe du Monde,
mais
là,
pas
oui.
10 secondes.
Sur cette Coupe du Monde, là, oui. Non. Sur la prochaine,
moi,
non.
Je suis pas d'accord.
Sur la
prochaine,
moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord hein.
Sur cette Coupe du Monde-là, je mets Mike Maignan.
Non.
Qu'est-ce qu'il a fait
ça
avec
manque
Tottenham
d'expérience encore.
Non, mais Hugo Lloris, qu'est-ce qu'il fait? Mais Mike Maignan, tu vois ce qu'il fait? Ce qu'il a fait à Lille, oui, vous pouvez dire ça manque d'expérience. Il est arrivé à l'AC Milan, la Sudetto, il est très rassurant. Moi, je vois Mike Maignan derrière, c'est très rassurant. Il est plus rassurant pour moi que Hugo Lloris.
Une Coupe du Monde, ça. Voilà. L'expérience, tu la remplaces pas. Il est bon. Moi, j'ai aucun problème. Pour moi, c'est le futur. Pour moi, après, je ne sais pas ce que les sélectionneurs, le sélectionneur ou le prochain fera, mais pour moi, Mike Maignan a sa place pour le futur. Mais pour l'instant, Lloris doit faire cette Coupe du Monde.
Eh ben, c'est parfait. On y reviendra en tout cas demain dans l'avant-match. Stéphane, tu as eu Jacques Vendroux?
Oui, j'ai eu Jacques Vendroux ce matin. On lui a parlé justement. Ouais. Alors lui, Jacques, je ne sais pas si c'est dans cet extrait, il en parle. Il est à fond pour... Il est à fond, bien sûr, pour remettre les clés du camion, comme il me dit à Olivier Giroud devant. Donc, il parle un petit peu de ça, et pas inquiet, lui, pas trop inquiet. Mais il y a aussi, surtout, on va le voir, on en parlait tout à l'heure, là, un coup de gueule de Jacques qui était dans le stade hier pour le match d'ouverture.
Allez, Jacques Vendroux.
Pas inquiet, parce que les jeunes vont prendre le pouvoir. Et je veux dire, c'est vrai qu'avec Dembélé, avec Griezmann, avec Mbappé, avec Olivier Giroud, ça va le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut gagner contre l'Australie, point barre, et puis c'est tout. Il ne faut pas se la faire à l'envers. Faut gagner, si vous faites pas de turnier, vous êtes déjà en position compliquée, puisqu'après vous avez joué la Tunisie, vous avez joué le Danemark et surtout la Tunisie. Donc si vous voulez, quoi qu'il arrive, il faut gagner contre l'Australie, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut passer, c'est récurrent, mais il faut passer à autre chose. Voilà, le problème Benzema est réglé, il ne joue pas, on passe à autre chose. Et on confie les clés du camion, si on peut parler comme ça, à Olivier Giroud.
Et au niveau de dans la ville, dans Doha et tout, est-ce que la pression, quoi, est-ce qu'il commence à y avoir un peu des supporters français? Est-ce qu'il commence à...
J'en ai pas vu beaucoup. Non, mais il y aura 5 ou 6 000 Français, mais il y aura beaucoup d'expatriés. Il y a beaucoup de Français qui vivent ici au Qatar, qui vont venir au match. Et puis il y a certains, quelques supporters de France qui vont venir, mais ça coûte horriblement cher de venir de France, l'hébergement. Et complet, je dirais, il n'y a quasiment plus de place dans les hôtels. Les Qataris ont été obligés de faire venir des grands bateaux, des grands paquebots pour mettre dans le dans la baie entre guillemets de Doha. Et donc, si vous voulez, bon, il y aura des supporters. Déjà hier, on a vu au match de l'ouverture, bon, je veux dire, de nombreux supporters qataris, sauf qu'ils sont partis avant la fin du match parce que leur équipe était menée 2-0. Donc là, franchement, tout ça fait pas sérieux quand même quelque part, franchement. Ouais.
Ben ça, c'est pour l'instant le fait marquant qui vous a le plus déçu. C'est ça, justement.
Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le match en 2018, le match d'ouverture, c'est la Russie qui joue l'Arabie Saoudite.
Ouais, et qui...
Le stade était plein du début jusqu'à la fin. Ouais. Et même les supporters de l'Arabie Saoudite sont restés dans le stade. Mais là, c'est un manque de respect total pour le football. C'est un manque de respect total vis-à-vis de l'émir qui a organisé cette Coupe du monde de football, même si on n'est pas d'accord avec la politique, même si on n'est pas d'accord avec les positions qui ont été prises par les Qataris concernant les...
Voilà, donc Jacques Vondrou, Europe 1, donc pas content. Le coup de cœur, le coup de gueule de Jacques Vondrou, puis le coup de cœur vis-à-vis de l'équipe de France.
Et pour ceux que ça intéresse, il va même encore un petit peu plus loin dans le quotidien du sport, dans sa chronique sur le quotidien du sport vis-à-vis du Qatar. Il parle d'une insulte du peuple qatari au football.
Très bien. Eh ben, merci messieurs. On a été très très bavards. On va remercier Noël Tosier, on va remercier Jacques Vondrou. Juste un petit chapitre sur la Coupe de France, messieurs, hein, puisque le Paris FC est allé gagner à Cône-sur-Loire, donc 2-0, donc ce week-end. Et puis Paris Atlético a été battu par Lina Montlhéry et Club Essonien 2-1.
C'est ça, battu 2-1, oui. Alors que, enfin, il y a 2-0 pour Lina Montlhéry, réduction du score avant la mi-temps. On est en supériorité numérique pour le Paris 13 Atlético. On joue une seconde mi-temps à 11 contre 10. Malgré tout ça, on n'arrive pas à revenir au score. On est éliminé. Hein. Lina Montlhéry qui va jouer contre le RC Lens en 32e de finale.
Équipe habituée au 32e de finale de Coupe de France. Troisième année consécutive.
L'année dernière avait sorti Amiens.
Ils avaient
alors
sorti Amiens.
Ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Ils reviennent 3-3 et gagnent au penalty. Donc, dommage pour le Paris 13 Atlético.
Et Paris FC contre Valenciennes. Voilà.
Et je voulais dire, et je voulais annoncer, en même temps, il y a le match États-Unis-Pays de Galles. Les États-Unis viennent de marquer.
Voilà. 1-0 contre but. 1-0 contre le Pays de Galles.
Et c'est juste le début du défilé.
Voilà. Et juste un petit mot de basket, parce que bon, c'est quand même les clubs du 13e. 9e journée, victoire de Paris à Rouen, 115-110. Paris est 12e, le Paris Basket, avec Pau, Lac, Orthez, 33,3%. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la zone de relégation. Et puis qu'il y a Paris-Narbonne à 21h à la salle Sharpie ce soir.
Le Paris Basket qui avait très mal débuté sa saison.
Oui, qui va un peu mieux. Voilà.
Très bien.
Et puis dans le foot féminin, il ne faut pas les oublier. Victoire du Paris FC devant Guingamp 3-0. Et puis du PSG à Bordeaux 3-0. Toujours Lyon en tête avec 22 points. Devant le Paris Saint-Germain, 20 points. Et troisième, le Paris FC, 18 points. Voilà. Merci messieurs d'avoir été en configuration mondiale. On se retrouve lundi prochain. Et puis demain, donc, soirée exceptionnelle. On va le dire. Soirée exceptionnelle.
Ouais, mais moi, je peux pas être là.
Radio,
demain,
TV. Radio,
donc, je serai là lundi.
Oui, et puis on a aussi le 26 avec l'équipe de France et le 30 aussi.
D'accord, hein,
donc,
ça marche.
Radio TV, hein, Stéphane, on va rappeler. Donc,
et c'est important de le signaler aussi pour le commentaire, parce que on entend des gens qui en ont un peu marre des commentaires qu'on a classiques sur les chaînes de télé là, qui retransmettent, TF1, BI par exemple. Et nous, on en a deux là qui ont déjà fait leurs essais, qui sont vraiment super,
LNG,
super
Abou,
calés,
donc,
super intéressants. Ouais. Et en tout cas, moi, j'ai... Voilà. Je vais prendre ses commentaires.
Qui vont, de toute façon, tu seras là, hein, parce que comme tes partenaires, le quotidien du sport .com TV, c'est ça hein.
Le quotidien du sport TV.
TV, d'accord, ok. Et puis nous, ça sera sur mon Paris FM. Merci Julien. À très bientôt pour les autres émissions.
Avec plaisir. Hein,
c'était sympa.
Plaisir.
Hein,
très sympa.
Voilà. Eric.
À lundi prochain. Voilà, moi, à lundi
prochain. On est là aussi samedi prochain, mais on en reparlera demain, puisque
de toute façon,
on est là sur tous les matchs de l'équipe de France.
Comme on s'est dit, avec un grand plaisir de toujours être avec vous.
Voilà, merci en tout cas. Et puis on aura Noël Tosi qui interviendra tout au long aussi de la compétition. Merci messieurs, on a été très bavards. Merci à Jason, mais le foot, c'est ça. MZ les princes. Hein. On va finir là-dessus. Et rendez-vous la semaine prochaine donc pour mon Paris Sport en configuration mondiale. Et puis demain, n'oubliez pas, grande soirée foot. Donc France-Australie sur Mon Paris FM et le quotidien du Sport TV. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain.
Je viens d'une ville où il n'y a plus de loi, où
plus de roi. Je veux être le prince de la ville.
Eh, je suis au volant dans ma caisse. Au fond rouge, je me demande une pièce. Paris connaît aussi la S. J'ai quelques trucs à régler dans la vie. J'ai refaire contrôle et je repars. Pourtant j'avais de la S. Et je vois des paires de fesses. Sur le trottoir, je te raconte pas les histoires des mestres. Quand t'as une dette, Paris n'est plus gigantesque. Donc marche avec un truc dans la veste. Les embrouilles de schnack dans le bus de nuit. Le soir y'a de l'action, donc jamais je m'ennuie. Je vais chez l'épicier, je viens me prendre un flash. Le soir au checker, ça peut vite partir en clash.
La musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai traîné, j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris les gels et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
3h du matin, dans les petites gâteries. Bonbon sur bonbon, aujourd'hui c'est Halloween. J'ai pas attendu le côté obscur pour avoir le flow de Anakin. J'suis défoncé toute l'année. À ce qui paraît, y'en a qui attendent le nouvel an. En vérité, abandonner n'est pas dans le vocabulaire. Déjà que tenter n'est pas suffisant. J'marche dans la ville, bonne et la 8. Quand il s'agit de mes billets, bébé, y'a pas de sentiment. Guette mes rétines, mes cicatrices. Comme le corps à Dolcim, mes histoires en disent long. Hier et aujourd'hui se ressemblent, mais demain sera sûrement différent. Les erreurs font grandir, j'ai un cœur de géant.
Yeah, la musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai traîné, j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai traîné, j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
La nuit dans Paris Sud, je pense en grand. Sais-tu ce que ça coûte de vivre quand les gens s'endorment? À travers la vitre, je vois les feux ensanglantes et les gouttes de pluie.
Et je pense,
rien ne peut m'arriver, j'ai le cœur ensommeillé. Cette nuit, j'ai mal rêvé, la douleur m'a réveillé. Faire le pont de la Concorde et revenir à pied. Mais au-delà de ton corps, yeah. Penses-tu qu'un jour on ira mieux? Je rêvais d'avenir à Dieu. Vu qu'on pensait finir à deux, mais tire un trait, t'as tout raté. T'inquiète avant de dire adieu. J'ai des prières à dire adieu. Je me tairai une fois enterré, mais la terre est irradiée.
Un noir, je suis un noir tout au fond de ma vie. Bienvenue dans la ville où les témoins n'ont jamais rien vu. J'ai fait tapiner ma marie dans tout Paris Sud. Y'a mes empreintes sur pas mal de ses murs et mon alien sur pas mal de ses queues. J'suis sorti de la maison sans dire au revoir à maman et j'suis pas rentré de la semaine. J'ai perdu le sommet, juste mes semelles sur la route qui mène au sommet. La voix sort des cités HLM. Flo et Saldiar, il a fait de la scène. Rêve de briller comme Paris la nuit. En se plivant tes lèvres, j'suis le prince de la vie.
Paris Sud, la nuit.
On est les princes de la vie. On est les princes de la vie.
M, Z, yeah.
On est les princes de la vie.
Sensu, escrou, boy.
On est les princes de la vie. La musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai traîné, j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai traîné, j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Je viens d'une ville où il n'y a plus de loi, où il n'y a plus de roi. Je veux être le prince de la ville.